divisé par les champs. À la belle des Yvelines, marchaient les...
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 26 février de 18 à 21h, en différé jeudi 27, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Bekech, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir chers amis, donc Dominique Vénère, Philippe
bonsoir.
Conrad.
Bonsoir.
Jean-Claude Valla.
Bonsoir.
Une émission qui va être dense et qui va être consacrée à deux thèmes. Dans une première partie, nous allons parler de la riche actualité africaine, à l'occasion de la sortie du numéro 38 de l'Afrique réelle et qui traitera des grands problèmes actuels du continent. Et dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons de l'affaire Jean Moulin. Nous reviendrons sur l'affaire Jean Moulin à la suite de ces deux émissions un peu insolites qui ont été produites par la télévision française. Et nous essaierons de décortiquer un peu ce qu'il y a dans le non-dit ou dans le très-dit de ces émissions et quel est le décalage par rapport à la vérité historique. Dans l'immédiat, nous commençons donc par notre première partie qui est consacrée à l'Afrique. Et comme d'habitude, je demande à Philippe Conrad poser les questions pertinentes dont il a le secret.
Oui, alors évidemment, la matière de nos débats ce soir sera étroitement liée à la publication du numéro 38 de l'Afrique réelle, une revue que nous connaissons bien, qui approche, je crois, de son 10e anniversaire.
Qui entre en cette 10e année.
Et l'Afrique réelle nous propose, dans cette livraison donc de l'hiver 2002-2003, un article évidemment sur la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes au cœur d'une actualité là tout à fait brûlante. Mais il ne faut pas négliger non plus les événements qui se déroulent en Afrique centrale dans l'ancienne Oubangui-Chari, dans cette République centrafricaine, qui est elle aussi sombrée dans une certaine forme de chaos. Et puis, l'Afrique réelle revient également sur un certain nombre de discours universitaires ou pseudo-scientifiques qui voudraient se parer justement des oripeaux d'une science exacte concernant notamment l'origine des ethnies, des peuples africains. C'est la fameuse thématique développée par certains des ethnies africaines fabriquées par le colonisateur afin de mieux diviser pour régner. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions. Et puis également de remettre un petit peu l'histoire à l'endroit aussi à propos de l'histoire coloniale, toujours. Nous avions eu, il y a près d'une vingtaine d'années maintenant, le remarquable travail de Jacques Marseille sur l'empire colonial français, un travail dans lequel il avait montré que celui-ci avait été un fardeau pour la France et qu'il lui avait coûté beaucoup plus cher qu'il ne lui avait rapporté, contrairement à ce qu'avançaient la plupart des gens à l'époque. Eh bien, nous avons aujourd'hui un bilan à peu près comparable à propos de l'Angleterre, grâce à de nombreuses contributions publiées dans l'Oxford History, et Bernard Lugan aura l'occasion de nous en parler. Alors évidemment, la première question que nous devons aborder du fait de l'actualité, c'est la situation en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà eu l'occasion de le faire assez souvent. Vous nous avez montré, Bernard, les dimensions ethniques, notamment de ce conflit, dimensions généralement évacuées par la grande presse. Il apparaît clairement au fil des mois qu'au contraire, elles tiennent une place décisive dans l'évolution des événements. Tout cela, maintenant, vous avez eu l'occasion de nous l'expliquer. Que pouvez-vous nous dire à propos de l'évolution des choses telles qu'elles se développent actuellement? Quels sont les scénarios auxquels on peut penser à court terme, parce que la France est quand même directement impliquée dans cette affaire et s'est retrouvée de fait embarquée dans cette galère? Doit être ou quelle devrait être la position française? Et également, une question que se posent sans doute beaucoup de nos amis, après avoir vu à la télévision les manifestants pro-Gbagbo agiter des pancartes curieusement américanophiles, quel serait éventuellement le rôle des Américains dans cette affaire? Ne chercherait-il pas à contribuer à entretenir une déstabilisation qui évidemment gênerait la France dans un contexte international plus général aujourd'hui que nous connaissons bien? Alors voilà un certain nombre de questions à propos de la Côte d'Ivoire auxquelles, je crois, vous avez de nombreuses réponses à apporter.
Oui, évacuons directement à la question américaine, car là nous sombrons dans le fantasme, et je ne crois pas du tout à la théorie du complot, je laisse ça à ceux qui en sont les spécialistes, et je ne vois pas la main de l'oncle Sam partout, même si dans l'affaire irakienne, ma position est très claire, elle soutient, pour une fois, le gouvernement français. Il est bien évident que là, c'est un autre problème. Ce n'est pas parce que nous sommes en palabre grave avec les Américains dans ce domaine de l'Irak et dans d'autres problèmes, qu'il faut voir la main des Américains partout. C'était le même cas dans l'affaire du Rwanda dans les années 93-94. Non. Les Français se sont pris les pieds dans le tapis, et s'étant pris les pieds dans le tapis, la nature ayant horreur du vide, eh bien, les Américains peuvent être là. La seule intervention des Américains dans cette affaire de Côte d'Ivoire s'est produite au début de la crise. Quelques jours après le coup d'État, la tentative de coup d'État, le putsch, le soulèvement de ces militaires rebelles, quand les Français, qui avaient toutes les cartes en main, parce que nous connaissons bien la Côte d'Ivoire, nous sommes chez nous en Côte d'Ivoire, nous connaissons tous les protagonistes, quand les Français jouaient très finement, les Français sur place ont joué très finement, et le gouvernement français au départ a très bien joué aussi. Il pensait pouvoir rétablir une sorte de dialogue. Il pensait pouvoir rétablir les fils ténus du dialogue, comme il l'avait fait en Centrafrique, en évitant la rupture entre les hommes, c'est-à-dire entre ceux qu'il connaissait chez les nordistes et chez les sudistes. Et c'est pour cela que l'armée française s'était déployée, avait commencé à se déployer, et d'une manière avec énormément de tact et avec énormément de connaissance du terrain. Or, les Américains, avec leurs gros souliers, leurs gros sabots, leurs gros rangers, ont perturbé cela dans la mesure où, ignorant tout des réalités africaines et mus par leur côté humanitaire et par leur côté émotionnel, ils ont déclaré que les enfants de pasteurs qui se trouvaient dans l'école adventiste ou de pentecôtiste de Bouaké devaient être protégés immédiatement. Et si les Français ne le faisait pas, l'armée américaine allait intervenir. Et les Américains ont commencé à positionner des troupes d'intervention en mer et étaient prêts à faire un raid héliporté pour aller dégager leurs enfants, qui n'étaient absolument pas menacés d'ailleurs, parce que les Blancs n'ont pas été menacés en zone rebelle du Nord. Je dis bien en zone rebelle du Nord, je ne parle pas de la zone rebelle de l'Ouest, c'est autre chose, nous en parlerons tout à l'heure. Ce qui fait que les Français, pour ne pas se faire dépasser par les Américains, qui venaient perturber le jeu des négociations, ont été obligés d'avancer. en zone rebelle et de prendre la région de Bouaké pour la sécuriser. En d'autres termes, l'intervention américaine a forcé la main des Français. Alors, cette intervention américaine n'était pas, bien sûr, totalement désintéressée. Mais je ne pense pas qu'il faille voir dans les événements de Côte d'Ivoire la marque des Américains. Alors maintenant, vous m'avez posé la question de savoir, à Abidjan, nous avons vu des manifestations contre l'ambassade de France, et nous avons vu que les manifestants, bien téléguidés par le parti au pouvoir, nous y reviendrons tout à l'heure, brandissaient des pancartes de soutien, d'appel aux Américains, Bush vient à notre secours, etc. Il faut bien voir, là, qu'il s'agit d'une affaire ultra minoritaire. Car qui est au pouvoir à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire? C'est une ethnie très minoritaire, l'ethnie des Bété, qui fait partie du groupe Crou, c'est-à-dire une population qui rassemble 12% des Ivoiriens, au grand maximum, avec les quelques alliés des populations voisines ou différentes, comme les Atiers, qui eux sont des Akans. Bagbo, qui est au pouvoir, a une base humaine de 15% de la population, allant au maximum 16-17%. Et si vous regardez bien la télévision, et si vous avez bien regardé la télévision, vous avez constaté que ces manifestants qui attaquaient l'ambassade de France étaient fort peu nombreux. En fait, Bagbo a une force militante de 3 à 5 000 jeunes désœuvrés à Abidjan. Et il est bien évident, dans le cadre du contexte international qui s'est déroulé il y a un mois, il est bien évident que, à l'époque, qui avait l'avantage diplomatique? C'était les États-Unis. Et il était de bonne guerre pour les gens de Bagbo d'essayer d'incendier l'ambassade de France tout en acclamant les Américains. Aujourd'hui, Bagbo fait machine arrière, car le contexte international a totalement changé, et ce sont les Américains qui sont diplomatiquement isolés, et ce sont les Français qui, eux, ne sont plus isolés, surtout en Afrique, parce que le président Chirac a réussi un très joli coup. Et je ne suis pas un habitué des félicitations décernées au président Chirac. Et là, il a été remarquable. Il a été remarquable. Et l'équipe africaine qui le conseille a été superbe. Parce qu'ils ont réussi un coup de maître en réunissant le congrès des franco-africains. Et lorsque certains esprits à courte vue ont attaqué la France parce qu'elle avait invité Mugabe... Mais c'est vraiment une vision à courte vue. Ça a été au contraire un coup politique fabuleux qui a été réussi par la France. Parce que, en faisant venir Mugabe, cela permettait de rassembler tous les États africains. Et à l'issue de cette réunion, les États africains, à l'unanimité, ont adopté la position française. Et je vous renvoie à ce qu'a déclaré le président Mbeki d'Afrique du Sud. Interviewé le lendemain du sommet franco-africain, il y a trois pays africains qui sont au Conseil de sécurité. Il y a l'Angola, il y a la Guinée et il y a le Cameroun. Et qu'a dit le président Mbeki? Nous avons pris une position africaine à l'unanimité. J'entends que les pays africains se conforment à la décision d'unanimité prise par les Africains à Paris. Donc c'est un très joli coup. C'est bien évident que les blancs de Rhodésie se sont fait prendre leur terre. Oui, mais c'était inscrit dans l'histoire. À partir du moment où les blancs ont remis le pouvoir à une majorité noire, il était inscrit qu'ils perdent leur terre. J'annonce depuis 10 ans que les blancs d'Afrique du Sud perdront leur terre. Parce que ce qui est arrivé au Zimbabwe arrivera en Afrique du Sud. Quand vous n'avez plus le pouvoir en Afrique, vous n'existez plus. En Afrique, le pouvoir ne se partage pas et il n'y a pas de minorité. Il n'y a même pas le statut de dhimmi qui existe en pays musulmans. Il n'y a même pas cela. D'autre part, la possession de la terre en Afrique est considérée par les blancs, est considérée par les noirs comme une survivance de la période coloniale. Alors, regardons l'avenir, ne regardons plus le passé. C'est un très joli coup qu'a réussi le gouvernement français. Ce qui fait que le président Gbagbo, quand je dis président, je le mets entre guillemets parce qu'il n'a aucune légitimité, est maintenant très très mal placé. Et depuis quelques jours, vous le voyez céder. Il n'est plus arrogant. Les rodomontades sont terminées. Il vient même de demander audience au président Chirac. En disant, on va aplanir tous les deux les difficultés si Chirac me reçoit, bien après, nous allons faire le gouvernement de coalition, qui ne réglera rien au problème d'ailleurs. Donc, la donne politique a totalement changé. Ce qui fait que, aujourd'hui, on ne voit plus de manifestations pro-américaines à Abidjan. Alors, n'ayons pas les yeux collés sur des clichés et voyons un peu plus loin, voilà la réalité. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il convient d'expliquer la situation de fond en Côte d'Ivoire. La situation de fond en Côte d'Ivoire, j'en ai souvent parlé ici, nous développons dans l'Afrique réelle de ce mois-ci cette réalité. La situation de fond de la Côte d'Ivoire est très claire. La Côte d'Ivoire n'existe pas. La Côte d'Ivoire est une création coloniale. La Côte d'Ivoire est un carré, une sorte de quadrilatère, pardon, qui a été constitué à la fin du XIXe siècle par les Français, qui ont tracé des frontières, généralement adossées à des fleuves, mais qui sont des frontières qui coupent les peuples. Or, au moment où la colonisation se fait en Côte d'Ivoire, les grands peuples de l'Ouest africain ne sont pas encore stabilisés. Les grandes migrations qui ont commencé depuis le XVIe siècle ne sont pas totalement terminées. Et la Côte d'Ivoire est ce que j'ai appelé une terre de conquête. Une carte que je publie dans l'Afrique réelle, une carte que j'ai dressée, montrant bien d'où viennent les divers peuples qui aujourd'hui occupent la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui sont ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire subit depuis le XVIe, XVIIe siècle un triple mouvement d'invasion. Des invasions venues du Nord qui sont les invasions malinquées. Et nous retrouvons aujourd'hui le grand mouvement malinqué avec son leader Ouattara. Des invasions qui viennent de l'Est et qui sont des invasions Akan. Les Akan sont des Baoulés. Les Baoulés qui vont être au pouvoir avec Oufouet Boigny et ensuite avec son successeur bien Fallot. Et des invasions qui viennent de l'Ouest, qui sont des invasions Crous. Les Crous, qui sont les Bétés qui appartiennent à la famille Crous, qui sont à cheval sur le Libéria et sur la Côte d'Ivoire. Et ces trois mouvements de migration vont écraser les occupants anciens de la Côte d'Ivoire, qui sont les Koulangos, les Sénoufos, les Danes et les Gouros, qui vont être broyés par ces trois invasions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'on peut dire qu'au point de vue ethno-linguistique, la Côte d'Ivoire est partagée en trois grands ensembles. Trois grands ensembles que nous retrouvons à travers les grandes forces politiques. Or, parmi ces trois grands ensembles, l'un est un ensemble septentrional, qui est un ensemble des savanes, qui est rattaché à tous les grands peuples du Sahel, à tous les grands peuples du Nord. Et ce grand ensemble vient buter sur une réalité qui est tout à fait déterminante si l'on veut comprendre l'histoire du monde ouest africain, qui est que, jusqu'au XVIe siècle, quelles étaient les forces dominantes dans le grand ensemble ouest africain ? C'était les forces sahéliennes. Tous les grands empires se sont créés entre la zone préforestière au nord et la zone saharienne au sud, pardon, et la zone saharienne au nord. De l'Atlantique à l'est du lac Tchad, des grands empires se sont succédés. Le royaume de Ghana, l'empire de Mali, l'empire Songhai, etc. À partir du moment où les Portugais découvrent le littoral de l'ouest africain, fin 15e, début 16e, et à la suite des Portugais, les Européens qui vont s'y installer, qui vont créer des comptoirs, nous assistons à un phénomène qui est fondamental, qui est le basculement du cœur politique de l'Afrique de l'intérieur vers le littoral. Et les grands empires vont disparaître au profit d'États nouveaux qui se créent au contact des Européens sur le littoral. Et ces États nouveaux sont des créations qui sont tout à fait récentes. Et il se trouve que ces États nouveaux, à l'exception de l'un ou deux d'entre eux, ne vont pas résister au XIXe siècle à la Renaissance sahélienne. Car au XIXe siècle, nous assistons à un renouveau du Sahel à travers les djihads, à travers l'expansion de l'islam, les grandes conquêtes qui se produisent, et ces grandes conquêtes poussent vers le sud pour atteindre la zone de la forêt et pour atteindre le littoral. Et au moment où les peuples du sud vont être balayés par les peuples du nord, intervient la colonisation. La colonisation qui se fait à partir du littoral, qui va sauver les populations littorales, qui va les protéger de l'expansionnisme nordiste et musulman, et qui va renverser l'ordre des valeurs de l'Afrique. Premier renversement, quand les Portugais s'installent, le basculement du cœur politique et économique du Sahel vers le littoral, et deuxième basculement, l'empêchement mis à l'expansionnisme nordiste vers le sud, par la colonisation. La décolonisation se produit ensuite. Et la décolonisation, c'est la fin de la parenthèse coloniale. Pendant 40 ans, rien ne se passe, parce que nous sommes en période de guerre froide. Ce qui fait que la guerre froide gèle les situations. À partir du moment où il n'y a plus de guerre froide, à partir du moment où l'Afrique peut renouer avec son histoire, à partir du moment où l'Afrique n'est plus l'enjeu entre les blocs, ce sont les vieilles constantes africaines qui réapparaissent. Or, quelles sont ces grandes constantes? Eh bien, c'est la reprise de la poussée des peuples guerriers du Nord vers le Sud. Et c'est très exactement ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Avec un événement qui vient compliquer la situation, qui est qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des peuples tout à fait minoritaires et qui sont des peuples forestiers. Ce sont les Bété. Qui sont les Bété? Peuple intéressant que le peuple Bété. Peuple Bété qui appartient au grand ensemble Krou, que l'on retrouve, je l'ai dit, au Libéria, et qui était au pouvoir avec le sergent Samuel Doux au Libéria. Et ces Bété sont des gens très différents. Les Bété, les Krou en général, sont très différents des Baoulé et des Malinké. Très différents de l'ensemble Akan, très différents de l'ensemble Malinké. Pourquoi? Ils n'ont jamais constitué d'État. Ce sont des gens qui vivent dans le milieu forestier. D'ailleurs, lorsqu'on étudie un peu l'histoire de l'art en Afrique, je me suis bien intéressé à la représentation des mentalités à travers les masques, par exemple. Lorsque vous voyez les masques Sénoufo, lorsque vous voyez les masques Baoulé, lorsque vous voyez les masques des peuples de la savane, vous avez des masques qui sont souriants, des masques épanouis, des masques qui sont des masques de vie. Et lorsque vous étudiez les masques des peuples de la forêt, au contraire, vous avez des masques terrifiants, des masques angoissants, qui reflètent bien l'aspect de ces populations écrasées par la sylve. Parce qu'il faut connaître ce qu'était cette forêt primaire du littoral de l'Afrique de l'Ouest. Et ces populations sont écrasées par le milieu. Et ces populations n'ont aucune vision dépassant le cadre tribal. Autant la vision ethnique est valorisante, car elle est générale, autant la vision tribale est un émiettement. On confond toujours les définitions ethnie et tribu. Aujourd'hui, comme la notion de tribu est péjorative, on parle d'ethnie à la place de tribu. Mais ce n'est pas du tout la même chose. L'ethnie est un élément regroupant, coagulant du tribalisme. Et l'ethnisme est le passage obligé qui serait l'équivalent du nationalisme que nous avons connu chez nous en Europe. Or, chez ces peuples de la forêt, ce n'est pas d'ethnisme qu'il faut parler, c'est de tribalisme. Car ces gens n'ont pas de vision d'ensemble. Ils ramènent toujours tout au plus petit commun dénominateur tribal, et souvent clanique. Et ce sont ces gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, en Côte d'Ivoire, qui n'ont aucune tradition étatique, qui sont des gens qui ont une revanche à prendre, essentiellement sur les Baoulé. Pourquoi? Oufouet Boigny, donc qui était Baoulé, avait un fort contentieux avec les Bété. Oufouet Boigny avait une phrase très dure lorsqu'il parlait des Bété. Il les appelait les sauterelles de Marigot. C'est pour vous dire bon, la considération que le président Oufouet avait pour les Bété. Il faut dire que les Bété étaient les seuls qui lui avaient vraiment résisté. Certes, les Annie avaient posé quelques problèmes, mais l'affaire avait été assez rapidement réglée. Les Bété se sont soulevés dans les années 70. Et le père Oufouet Boigny n'y était pas allé de main morte. Et dans toutes les régions du pays Bété, l'on vous montre encore les fosses communes dans lesquelles des villages entiers ont été enterrés par l'armée ivoirienne qui a réglé le problème. Lorsque vous prenez la carte de la Côte d'Ivoire dans les années 1980, vous constatez que le pays Bété, le pays Krou en général, est complètement tenu à l'écart du développement économique, mis à part le port de San Pedro qui va être créé, mais qui n'est pas... Bon, c'est un cas particulier. Il n'y a quasiment pas de route. Il n'y a quasiment pas d'infrastructure. Pays qui est puni. Les Bété sont punis par le pouvoir baoulé. Or, les Bété ne rêvaient que d'une chose, c'était de se venger. Et ils ont le pouvoir aujourd'hui. Ils ne vont pas le lâcher. Peuple minoritaire, qui a été véritablement mis au pas par les Baoulé. Peuple minoritaire qui fait un complexe par rapport au monde baoulé, qui est un monde de culture nationale, de culture ethnique élargie, qui fait un complexe par rapport aux grands ensembles politiques du Nord, les ensembles Mossi et autres. Et ils sont au pouvoir aujourd'hui. Il est bien évident qu'ils ne vont pas lâcher le pouvoir, bien qu'ils soient minoritaires. Alors, Les Kroubété sont des gens qui sont très particuliers également dans l'histoire des mentalités. Parce que ce sont les rois de la palabre. Ils sont excessivement forts pour la discussion, pour l'argumentation, etc. Et ce ne sont pas des gens qui ont le même sens de la parole que les gens du Nord, par exemple. Et il est tout à fait fondamental, quand on connaît un peu ces pays, de constater que les populations nordistes sont des populations pour lesquelles la parole donnée a une valeur. Tandis que pour les peuples de la forêt, qui sont des peuples qui sont confrontés à un milieu difficile, qui sont confrontés à un environnement humain difficile également, la survie est fondamentale. Et dans cette notion de survie, la parole donnée n'est pas l'essentiel. D'où les événements qui se sont passés avec la visite du ministre Villepin à Abidjan. La France a découvert, ahuri, que le président Gbagbo pouvait recevoir le ministre français des Affaires étrangères, se quitter bon ami, et le laisser quasiment se faire à moitié lyncher par la population qui était appelée à manifester contre lui par le même président Gbagbo. Duplicité complète. La France a découvert avec surprise que le président Gbagbo pouvait signer les accords de Marcoussi et rentrer en Côte d'Ivoire pour dire « Ah non, moi, j'ai signé en tant qu'individu, mais pas en tant que président. » Nous sommes là très exactement. Lorsque l'on connaît les mentalités des divers peuples de cette partie de l'Afrique, eh bien, l'on ne s'étonne pas. L'on ne s'étonne pas. Tandis que les rebelles du Nord sont des gens de parole. Lorsqu'ils disent « Nous ne reprendrons pas les armes », ils ne reprennent pas les armes. Pourquoi ? Parce qu'ils s'appartiennent à une tradition de chefferie importante, dans lesquelles la notion de la parole donnée, la notion du sens de l'honneur, est différente de celle des gens de la forêt. L'on trouve en Afrique des populations pour lesquelles le sens de la parole donnée n'existe pas. Par exemple, chez les Tutsis de l'Afrique orientale, le sens de la parole donnée n'existe pas. Tout est dans la discussion, tout est dans la manipulation, tout est dans l'intrigue, tout est dans le rapport de force. Donc il faut bien voir que les Africains sont différents entre eux. Alors ce qui ne laisse pas de m'étonner, c'est de voir que nous connaissons la Côte d'Ivoire intimement et que nous n'ayons pas été capables de comprendre que les gens qui sont autour de Gbagbo ont une façon de fonctionner qui est différente de celle des gens qui sont autour des populations nordistes. Et lorsque l'on connaît les mentalités, ben on sait très bien quelles sont les réactions des uns et des autres. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Les accords de Marcoussi sont une véritable farce. Et en ce sens, le président Gbagbo et ses partisans ont parfaitement raison lorsqu'ils disent « Nous ne pouvons tout de même pas accepter, nous qui avons été élus, enfin une élection bidon, bien entendu, nous en avons déjà parlé, élus par 30% des Ivoiriens, puisque les candidats des ethnies majoritaires ont été écartés de l'élection. » Nous ne pouvons pas accepter, nous qui représentons le pouvoir légitime, de devoir désarmer l'armée de l'État pour donner le ministère de la Défense et de l'Intérieur aux rebelles. Car vous nous parlez, vous Français, de bonne gouvernance, vous nous parlez de démocratie, or là, c'est la prime au coup d'État, c'est la prime au putsch, c'est la prime au soulèvement, c'est le contraire de la bonne gouvernance, c'est bien certain. D'autre part, une réalité qu'il ne faut pas oublier, c'est que le pouvoir ne se partage pas en Afrique. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il n'y a pas pouvoir que l'on puisse partager avec les uns ou avec les autres. Ou bien on a tout le pouvoir, ou bien on n'a pas le pouvoir. Et le chef africain détient à la fois l'auctoritas et la potestas. Et il n'y a pas de division entre un pouvoir législatif, exécutif, non. Tout est fondu. Et lorsqu'un chef doit discuter de son pouvoir, c'est qu'il n'est plus le chef. Dans tous les cas, il n'est pas question pour lui de donner une partie du pouvoir à des gens qui ne sont pas de son origine, de son clan, de son ethnie, de sa tribu, de son peuple. Car il y va de sa propre mort. Et nous en parlerons tout à l'heure à propos de la République centrafricaine, car c'est exactement ce qui s'est passé en République centrafricaine. Ce qui fait que les accords de Marcoussi étaient une pure construction européocentriste. exactement ce qui s'était passé au Rwanda avec les accords d'Arusha. Les accords d'Arusha qui étaient pour la France. Revenons en arrière en 1993. Guerre entre les Tutsis et les Hutus. La France socialiste, évidemment engagée dans le mauvais camp, du côté de ceux qui vont devenir les génocidaires Hutus du général Habyarimana. Et la France se retrouve avec une sale affaire à gérer. Donc le seul moyen pour la France de se dégager, car en 93, l'armée française est en ligne de front. Et si les Tutsis ne sont pas au pouvoir, c'est parce que l'armée française défend les Hutus. Le seul moyen de se dégager de cela, bien, c'est qu'un simulacre de partage de pouvoir ait lieu. Simulacre. Comment voulez-vous partager l'eau et le feu? Comment voulez-vous partager des ennemis qui s'entrégorgent depuis 1959, avec des haines considérables, avec des accumulations de meurtres, de massacres absolument indescriptibles? Solution totalement européocentriste. Partage du pouvoir, le général Habyarimana Hutu est placé devant un choix, soit vous acceptez de partager le pouvoir avec les Tutsis, soit nous retirons notre aide militaire. Et si nous retirons notre aide militaire, vous êtes mort. Vous êtes mort et vous le savez. Donc le général Habyarimana, pour ne pas mourir, accepte de partager le pouvoir avec les Tutsis. Et les ministères se répartissent. Résultat, 3 mois plus tard, le génocide. Parce que les extrémistes de la mouvance présidentielle savent très bien que si les Tutsis prennent pied dans le gouvernement, ils sont morts. Donc, pour ne pas mourir, la fuite en avant et le génocide. Eh bien, il s'est passé la même chose en Côte d'Ivoire. Le partage du pouvoir en Côte d'Ivoire, cela veut dire que toutes les équipes de tueurs qui gravitent de près ou de loin autour de certaines équipes présidentielles ivoiriennes savaient très bien qu'en cas de partage du pouvoir, eh bien, elles vont passer un mauvais quart d'heure. On parle d'ailleurs déjà de tribunal international, etc., pour ceux que l'on a qualifiés d'escadrons de la mort. Ce qui fait que le président Gbagbo, qui est tenu par ces extrémistes, ne pouvait pas céder. Sa situation est terriblement inconfortable. Terriblement inconfortable parce que, d'un côté, l'avantage diplomatique est autour de la France. Mais de l'autre côté, il sait très bien, le président Gbagbo, que s'il lâche trop face aux accords qu'il a signés à Marcoussi, il va être balayé par ses extrémistes. Donc sa situation est tout à fait inconfortable. Alors, face à cela, quelles sont les solutions? Bien, s'il y avait une solution miracle, je m'empresserais de vous la donner. La solution miracle, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, mais la situation pour le moment est la suivante. La France a provisoirement sauvé le régime Gbagbo en installant une ligne de défense militaire qui a empêché les rebelles de marcher sur Abidjan. Ce faisant, la France s'est trouvée en porte-à-faux par rapport aux rebelles et par rapport au gouvernement en place. La France a imposé à Marcoussi un gouvernement d'union nationale, ce qui ne veut rien dire. Un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire un gouvernement, s'il est mis en place, qui va masquer les profondes divisions du pays jusqu'à la prochaine fois, jusqu'au prochain coup, qui peut avoir lieu dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Dans tous les cas, la situation de la Côte d'Ivoire est simple, le pays n'existe plus, si tant est qu'il ait jamais existé. Et la coupure politique traduit une coupure géographique et humaine qui est très claire. Alors, la solution, il n'y en a pas. Mais la France, une fois de plus, a géré une affaire en étant uniquement réactive. Il n'y a aucune dimension général d'ensemble de cette question. En d'autres termes, nous agissons comme le SAMU ou comme les pompiers qui arrivent sur un accident, sur un incendie. La seule solution, mais ça dépasse le cadre de cette émission, la seule solution, c'est une solution qui serait dans le sens, qui irait dans le sens de la remise en cause des frontières issues de la colonisation dans cette partie de l'Afrique. Et la seule solution serait une solution qui irait faire une négociation, mais c'est une affaire très délicate, et qui ne peut se faire qu'avec d'immenses précautions, et si tant est que les Africains en aient l'intention. La nouvelle Union africaine devrait s'atteler à cela, sachant que les découpages coloniaux Et les découpages post-coloniaux sont, dans bien des cas, cause de problèmes. Pourquoi ? Car des peuples frères sont séparés. De même, des peuples antagonistes se retrouvent devant vivre dans des états artificiels alors qu'ils n'ont jamais vécu ensemble et qu'ils se détestent. Donc, un des grands chantiers qui pourrait être un de ceux menés par la nouvelle organisation de l'unité africaine serait précisément de remettre les cartes sur la table et d'essayer de reconstituer des grands ensembles viables. Car il est bien évident que l'affaire de Côte d'Ivoire est une affaire qui est le révélateur de ce qui va se multiplier. Si l'on nous avait dit il y a 10 ans que la Côte d'Ivoire allait exploser, tout le monde aurait dit « Mais monsieur, vous êtes fou ». Dans un de mes livres, je l'écrivais il y a 10 ans, en disant « La Côte d'Ivoire est très fragile. La Côte d'Ivoire risque d'être parmi les prochains pays à éclater ». Bon, il venait de pessimiste, avait une vision étroitement ethnique, etc. Bon, malheureusement, je ne me suis pas trop trompé, hélas. Et le problème est là. Le problème est que la Côte d'Ivoire annonce d'autres éclatements, annonce ce qui va se passer au Nigeria, annonce ce qui va se passer dans l'ensemble du monde ouest africain. Le Sénégal est un cas à part. Je mets le Sénégal à part parce que c'est une autre définition, il y a d'autres critères de division. Et l'on va en permanence être réactif. Alors que il eût été peut-être utile d'utiliser la question ivoirienne pour anticiper et de remettre les cartes sur la table. Or, cela n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que l'OUA, enfin l'ex-OUA, la Nouvelle Union africaine, est en partie dirigée par un certain nombre de pays phares, qui sont les pays les plus puissants de l'Afrique, qui sont tous des pays artificiels. Afrique du Sud, Angola, etc. Ces pays savent très bien que si les frontières coloniales sont remises en question, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. La mosaïque ethnique sud-africaine éclatera. La mosaïque ethnique angolaise éclatera aussi. Il y a eu 25 ans de guerre qui s'est fondée sur les antagonismes ethniques entre les deux principales ethnies d'Angola. Tout repartira. Donc pour ces états artificiels, et qui sont forts, soit économiquement, soit parce qu'ils disposent du pétrole, soit parce qu'ils ont des armées localement fortes, il est bien évident que la remise en cause des frontières est impossible. Alors quels sont les pays qui, eux, seraient favorables à la remise en cause des frontières ? Les vieux États. Le Rwanda, par exemple.
Le Burkina.
Le Burkina. Tous ces États.
Le Ghana.
Le Ghana. Ah oui, là, bien entendu. L'ancien empire Ashanti. Avec ses fuyards à Camp Baoulé. Qui sont des Ashanti. Et ces États qui ont une profondeur historique autour desquels doit se reconstituer l'Afrique et non pas autour de ces États artificiels qui sont de pures créations européennes et coloniales. C'est autour des vieux peuples, c'est autour des vieux empires, c'est autour des vieilles royautés, c'est autour des ethnies motrices de l'histoire africaine que doit se reconstituer la carte de l'Afrique. Pour ensuite développer des ensembles coagulants, parce que l'ethnisme n'est pas une fin en soi, c'est une étape. Mais l'ethnisme n'est pas le point oméga de l'histoire africaine, mais c'est le point obligé de passage d'une renaissance africaine. Et ceci est bien sûr refusé par les idéologues. C'est une idée que je développe dans mon dernier livre, là, qui est sorti ces jours-ci, God Bless Africa, aux éditions Carnot, et je développe cette idée. Nous en parlerons lors de la prochaine émission, nous parlerons de ce livre plus en détail, mais je signale déjà pour les auditeurs. Donc c'est une idée qui est très importante, c'est une idée très novatrice. Je fais un appel à la renaissance africaine par le retour à la tradition africaine et par retour à l'africanité. Fille des discours mondialistes, fille des discours tiers-mondistes, fille des discours européocentrés, libéraux-socialistes, le retour à la tradition africaine. Mais cela implique une révolution considérable dans les esprits, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Mais ceci n'est qu'une direction de recherche. Il est bien évident que, pour le moment, ça ne peut être qu'une bouteille à la mer que je lance. Voilà donc pour la Côte d'Ivoire, si vous me demandez sur la Côte d'Ivoire, donc une situation. Pour le moment, le président Gbagbo n'a plus l'avantage. Il a eu pendant quelques jours l'avantage et il l'a perdu. Il l'a perdu parce que la diplomatie française a très très bien joué. Et il va être obligé d'accepter d'une manière ou d'une autre le gouvernement de coalition ou bien il va disparaître. Car s'il n'accepte pas le gouvernement de coalition, bien militairement il ne tiendra pas face aux rebelles. Autre élément qui est fondamental. On nous a montré à la télévision des manifestants à Abidjan. Mais les les habitants d'Abidjan sont majoritairement acquis à la rébellion. Et les habitants d'Abidjan et de la région, à plus de 50%, sont prêts à descendre dans la rue. Et si les rebelles arrivent à Yamoussoukro ou dépassent Yamoussoukro, vous allez voir que l'équipe Bagbo et les BT viendront demander aux troupes françaises de les protéger contre les Mossis qui vont descendre avec les machettes, qui vont les aiguiser sur les bords des trottoirs et qui vont leur faire passer un sale quart d'heure. Parce que ce qui s'est passé depuis un an avec les massacres de nordistes par les BT n'est pas oublié. Et quand les nordistes vont descendre, ça va être terrible. Quand les Mossis avec leurs cicatrices tribales vont descendre, lorsque les hommes du Nord vont descendre et qu'ils vont sortir les machettes, bien moi j'aimerais pas être à la place des BT, hein. Ils vont retourner vers la forêt rapidement parce qu'il y aura peu de survivants. Et ils vont venir, et ceux qui manifestaient contre les Français sont les premiers à venir demander aux Français et aux para-français de les protéger. Donc la situation est une situation qui est excessivement mouvante,
hein. Oui, pour confirmer ce que vous dites, à la suite de l'assassinat de la vedette de la radio locale, oui. Là, je crois il y a eu des manifestations à Abidjan même, hostiles à Gbagbo et au régime déjà.
C'est un signe très fort parce que ces populations nordistes qui vivent dans la terreur des 3 ou 4 escadrons de gendarmerie gouvernementaux, donc BT, qui tiennent Abidjan, sont quand même sortis dans la rue.
Ah ouais.
Mais ils vont sortir par dizaines de milliers quand les rebelles vont avancer. Et Abidjan sera pris par les rebelles, peut-être même de l'intérieur.
Oui, est-ce que la France, dans cette perspective-là, n'a pas intérêt à jouer carrément la carte Ouattara, qui est quand même un homme politique africain d'une dimension nettement supérieure à la moyenne.
Après l'humiliation.
Qui dispose d'une reconnaissance internationale indiscutable.
Je ne dirais pas qu'il faut jouer les uns contre les autres, car bon, c'est un problème. Moi, je ne prends parti ni pour les uns ni pour les autres. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Seulement, je raisonne en africain. La France a perdu la face provisoirement lorsque Villepin a été hué, secoué à la sortie,
chahuté.
La France a perdu la face lorsque les Français ont été molestés au moment de l'évacuation vers l'aéroport. En Afrique, lorsqu'on perd la face, il faut immédiatement la récupérer. Et j'aurais été à la place des autorités françaises, j'aurais donné ordre aux unités de Bouaké de se décaler à quelques kilomètres d'Abidjan et de laisser les rebelles descendre. Peut-être pas jusqu'à Abidjan, mais au moins sur la route d'Abidjan, de façon à ramener aux réalités les hommes de M. Gbagbo. Ça n'aurait rien changé au problème, parce que si demain les rebelles du Nord prennent le pouvoir, ça ne réglera pas le problème de la Côte d'Ivoire. Mais du moins, l'affront fait à la France aurait été facilement lavé. Et d'ailleurs, par des gens qui aiment la France. Car autant les BT sont des gens qui nous détestent, en grande partie, autant les gens du Nord sont des gens qui sont tout à fait respectueux. La vieille tradition, les zones de recrutement des tirailleurs, etc. Nous sommes en zone amie dans les zones du Nord. Pas dans l'Ouest, attention. Les rebelles de l'Ouest, c'est tout à fait autre chose. Les rebelles de l'Ouest sont les rebelles de la contagion libérienne. Ce sont des assassins, des massacreurs, des drogués, tout ce que vous voulez. Les rebelles du Nord, non. Ce sont des gens d'une autre nature. Je ne dis pas que ce sont des génies politiques, mais ce sont des gens avec lesquels on peut très facilement s'entendre. Tandis que, avec l'équipe qui est autour de Gbagbo, c'est bien plus difficile. D'abord, nous avons affaire à des marxistes. Nous avons affaire à des gens qui ont été formés dans nos universités, donc qui ont été déformés dans nos universités. Ce sont tous des professeurs, des intellectuels. Donc ce sont des gens qui sont des idéologues. Et ce sont des gens qui ont été formés par tous mes collègues marxistes, tiers-mondistes et autres des universités africanistes, pardon, françaises. Je sais ce qu'ils valent. Tandis que les hommes du Nord, ben, ce sont des sous-officiers de l'armée coloniale. Ce sont des caporaux-chefs de tirailleurs. Ce sont des braves types avec lesquels on peut discuter. Regardez, lorsque le ministre Villepin s'est rendu en zone du Nord, il disait au garde à vous, il saluait. Bon, dans le Sud, eh bien, il criait des slogans hostiles à la France. Il se trouve que ceux du Nord sont musulmans, Et ceux du Nord sont, ceux du Sud sont chrétiens. Mais alors quel christianisme? Ce sont des chrétiens qui appartiennent à toutes les sectes protestantes déviantes américaines. Alors, si c'est ça le christianisme que nous devons défendre, ben, moi, je le laisse aux chrétiens. Pas, mais moi, c'est pas mon christianisme, ça. Il faut bien voir que le catholicisme a quasiment disparu en Côte d'Ivoire, avec Vatican II. Avec Vatican II, l'africanisation du clergé a fait que le catholicisme s'est évaporé en Afrique. Et sur ce catholicisme, que nous aimions, celui des missionnaires, qui s'est évaporé, s'est développé, se sont développés comme des champignons. Les sectes protestantes américaines, pentecôtistes, adventistes, tout ce que vous voulez, qui constituent un élément totalement perturbateur des réalités africaines. Mais moi, entre ces adventistes, ces pentecôtistes et les musulmans du Nord, mon choix est fait. Je préfère les musulmans du Nord, qui au moins, eux, sont encore dans leur cadre de chefferie, d'obéissance, de tradition. D'ailleurs, comme le disait le grand écrivain ivoirien Kourouma, en Afrique et en Côte d'Ivoire, les populations sont toutes animistes, certaines avec un vernis chrétien, d'autres avec un vernis musulman. Ceci pour dire que l'élément religieux n'est pas du tout déterminant. Contrairement à ce que certains qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire affirment, ce n'est pas l'élément déterminant. Car ces oppositions religieuses sont récentes. Or, l'opposition Nord-Sud existe depuis des centaines d'années. Or, le christianisme n'est là que depuis un siècle, et l'islam n'a avancé vers le sud que depuis un siècle et demi.
Oui, mais je crois que pour nos auditeurs, il faut bien voir que l'islam en Côte d'Ivoire, c'est pas du tout l'islam du Nigeria non plus.
Rien à voir. Ah oui, voilà.
Pour
oui.
des raisons historiques évidentes, là, au Nigeria, nous avons des gens qui appartiennent à toutes les mouvances intégristes, radicales, etc., dans un certain nombre d'états de la fédération là du Nigeria, mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas le phénomène analogue.
Votre remarque est tout à fait importante. Je parlerai différemment, bien entendu, dans le cas du Nigeria. Disons que l'islam dans le monde africain au sud du Sahara présente des aspects qu'on peut qualifier de fondamentalistes, si tant est que le terme veuille dire quelque chose, uniquement dans les zones de population non noire. C'est-à-dire dans les zones de population, de ces populations du Sahel, qui sont différentes de ces populations noires ouest-africaines, etc. Et quand l'islam arrive véritablement dans l'Afrique profonde, dans l'Afrique de la forêt, dans l'Afrique de la zone préforestière, il est digéré par l'animisme africain, comme le christianisme a été digéré par l'animisme africain. En d'autres termes, nous avons des risques d'islam fondamentaliste dans l'extrême nord de ces zones.
C'est le Soudan, c'est Khartoum.
Oui, voilà, exactement. Mais ça pourrait être le thème d'une autre émission. Alors voilà donc voilà ce que nous pouvons dire sur la Côte d'Ivoire. Vous vouliez me poser une question. Oui. Y a-t-il des questions de l'auditeur, Victoria?
Vous écoutez Radio Courtoisie. Il y a des remarques.
Alors, allez-y, citez-les toutes.
Je dis tout, oui. Vous dites que la Côte d'Ivoire n'existe pas, mais on peut en dire autant de la quasi-totalité des États d'Afrique noire. En particulier le Nigeria, le Tanzania, le Kenya, l'Afrique du Sud. Les envahisseurs du Nord étant musulmans, les craintes de M. Ferré vont-elles se réaliser? Et va-t-on voir la cathédrale de Yamoussoukro transformée en mosquée? Que doit faire l'armée française, selon vous, en Côte d'Ivoire? Tout arrive. Il y a 3 semaines, Jean-Pierre Elkabbach posait la question à
Alassane Ouattara.
Finalement, la démocratie est-elle adaptée à l'Afrique? La question reste posée. Que pensez-vous de la lettre ouverte du père Marzillac au président Chirac, paru dans Présent il y a une semaine, l'avez-vous lu? Il est annoncé aujourd'hui la découverte d'un massacre de 90 gendarmes ivoiriens, massacre perpétré par le MPCI début octobre 2002. Quelle est votre analyse sur la question du territoire angolais de Cabinda?
Oui, Cabinda. On sort de la Côte d'Ivoire, la Victoria. Question de côté pour tout à l'heure, éventuellement. Là, nous parlons de la Côte d'Ivoire et non pas de l'Angola.
Pensez-vous de la lettre du continent?
Bon, bah écoutez, j'ai répondu à toutes ces questions, à la fois sur la démocratie, à la fois sur la religion, à la fois sur le rôle de l'armée française. Je ne veux pas intervenir dans le débat interne ivoirien, ce n'est pas mon propos. Je ne suis ni pour Ouattara, ni pour Gbagbo, ni pour Bédier. J'essaie, si vous le voulez, de mettre les cartes à plat pour la compréhension des auditeurs. Moi, j'aime bien tout le monde. Je n'ai pas de sympathie particulière pour les uns ou pour les autres. Je considère simplement que historiquement et politiquement, certains ont plus d'éléments entre leurs mains pour faire fructifier une réalité que d'autres. Et peut-être a-t-il été dommage de ne pas soutenir le président Bédier lorsqu'il a été renversé par le général Gaye. Parce que si l'on revient à la source, le problème contemporain actuel de la Côte d'Ivoire procède d'une violation de la Constitution. Le président Bédier avait été élu, lui, tout à fait naturellement par des élections légales et non truquées, à peu près non truquées. Or, il a été renversé par le général Gaye. La France, qui était toujours à la pointe de la défense de la bonne gouvernance, aurait dû à ce moment-là envoyer l'armée française pour renvoyer le général Gaye à sa caserne et remettre le président Bédier, normalement élu, au pouvoir. Tout le reste découle de cela. Alors si on parle de bonne gouvernance, remettons Bédier au pouvoir et remettons tout au point de départ et recommençons les élections. Mais voyez, nous sommes dans les si et dans les hypothèses. Voilà. Bon, et pour le reste, eh bien, écoutez, je n'ai rien à dire. Quant à la religion, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, l'affaire ivoirienne n'est pas une affaire d'abord religieuse. Et bon, il est bien évident que certains pensent le contraire. Eh bien, très bien, parfait. Bon, chacun est libre d'avoir son opinion.
Alors, nous avons eu l'occasion d'aborder au cours des dernières années le cas de divers pays africains et on a vu dans quelle mesure la grille d'interprétation que vous privilégiez, Bernard, s'avérait tout à fait justifiée. Je rappelle la situation dans les deux Congo. Nous avons maintenant le cas de la Côte d'Ivoire, sans parler de l'affaire du Rwanda, bien sûr. Il est un autre pays que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer.
Très peu.
La situation se détériore très rapidement, et vous l'étudiez, vous l'évoquez dans le dernier numéro de l'Afrique réelle, c'est notre ancien territoire de l'Oubangui-Chari, devenu la République centrafricaine, que l'on a surtout connu à cause des débordements, n'est-ce pas, de l'empereur Bokassa, qui a été pendant longtemps un bastion de la présence française en Afrique centrale, et qui aujourd'hui apparaît complètement à la dérive. Je me souviens de la description qu'on donnait de Bangui en 1925, à l'époque de la croisière noire. C'était un petit paradis.
On l'appelait Bangui la coquette.
Voilà, Bangui la coquette, c'était un petit paradis par rapport à ce que ce pays est devenu. Il y avait un certain nombre de ressources qui étaient exploitées, le bois, le coton, etc. Et malgré l'enclavement dans cet ensemble français d'Afrique, cet Oubangui-Chari présentait différents atouts. Or aujourd'hui, on voit bien que là aussi, les affrontements, les divisions ethniques prennent le dessus. On voit bien une instabilité politique chronique, avec des hommes qui succèdent au pouvoir sans réussir à disposer d'une légitimité, d'une base sociale et politique suffisamment large.
Et pourquoi ?
Alors, que va-t-il advenir aussi de cette malheureuse Centrafrique, qui est un des pays les plus pauvres du monde, qui est le 170e pays du monde, je crois, en termes de revenus par tête d'habitant ?
La Centrafrique n'existe pas plus que la Côte d'Ivoire, comme le disait un auditeur tout à l'heure. Nous sommes en présence d'une Macédoine ethnique. Une Macédoine ethnique dans laquelle deux grands ensembles s'opposent. L'ensemble des peuples de la forêt et du fleuve au sud et les peuples de la savane au nord. L'on retrouve toujours le même critère géographique. Et il est absolument consternant de voir que des africanistes puissent parler de l'Afrique sans tenir compte de ces éléments. Dans le Figaro d'il y a 3 semaines, un grand géopoliticien officiel a réussi le prodige, sur une demi-page, de parler des événements de Côte d'Ivoire sans à aucun moment mentionner l'existence des ethnies, sans à aucun moment nous dire que tel mouvement rebelle représente telle ethnie, que le gouvernement représente telle ethnie associée à telle autre ethnie. C'est absolument aberrant. Il y a un refus des réalités. Nous sommes au début du discours de l'inégalité de Rousseau. Rousseau, commençons par écarter les faits, car ils sont étrangers à la question. Écartons les faits et réfugions-nous dans l'idéologie. Résultat, la malheureuse Afrique est en train de mourir. Alors, opposition entre la forêt, le fleuve et le nord. Et dans cette opposition, nous constatons que des peuples minoritaires ont exercé le pouvoir pendant des décennies dans la Centrafrique indépendante, dans l'ancienne Ubangi-Chari. De 1960 à 1981, ce sont les gens du fleuve qui étaient au pouvoir et essentiellement les Ngbaka. Or, les Ngbaka sont 5% de la population. Ils sont 200 000. Et les trois premiers chefs d'État, présidents ou chefs d'État, qui se sont succédés, Barthélemy Boganda, Jean-Bedel Bokassa et David Dacko, étaient des Ngbaka. En 1981, l'opposition nordiste se cristallise autour d'un Sara, qui est le président actuel, Patassé. Personnage équivoque, Patassé, qui lui aussi pense qu'il a un destin mystique. Moi, je méfie toujours des Africains qui prétendent avoir un destin mystique, parce que généralement, ça débouche sur des grandes catastrophes. Eh bien, Patassé a un destin mystique, son principal opposant aussi, parce qu'il est pasteur d'une secte protestante. Enfin, tout ça se passe entre les déviantes des sectes protestantes. Les Africains adorent ça. Chacun adore ça parce que ces sectes sont présentes, elles privilégient les rites de groupe par rapport à l'introspection résultant de Vatican II. Parce que, je fais une parenthèse sur la religion, qu'est-ce qui avait fait la force du catholicisme en Afrique ? C'est que le catholicisme en Afrique avait caché aux Africains le fait qu'il était une religion individualiste. Et il avait privilégié les rites de groupe, les magnifiques cérémonies, les processions, etc. Les Africains adoraient cela. Or, le christianisme est avant tout une religion du salut individuel. Or, comme l'individu n'existe pas en Afrique, comment voulez-vous que les Africains puissent adhérer profondément à une notion individualiste alors qu'ils ne savent pas ce que veut dire l'individu ? Quand Vatican II eut complètement balayé le catholicisme traditionnel pour le remplacer par une sorte d'ersatz de protestantisme, c'est-à-dire par le retour à une tradition totalement individuelle. Les Africains ont été complètement déboussolés. Ils n'ont plus compris. D'autant plus qu'au même moment, les bons pères partaient. Ou ils étaient trop vieux, ils mouraient, ou partaient en maison de retraite en France, en Belgique ou en Hollande. Et ils étaient remplacés par des curés africains. Alors, c'était plus la même chose. C'était plus aussi magique que le bon père qui avait la grande barbe et le casque colonial. Parce que le curé africain sortait du même village. On savait bien qu'il n'était pas possesseur de pouvoirs magiques et mystiques. Mais c'était le frère de case à côté. Bon. Donc, ça n'allait pas. En plus, il était pauvre. Tandis que toutes ces sectes protestantes issues des diverses déviances religieuses américaines ont de l'argent. Et en plus, ce sont les sectes, ce qu'on appelle les happy clappy. Ils sont tous ensemble, ils tapent des mains, ils sont parfaitement heureux, ils chantent le dimanche ensemble. Et il n'y a surtout pas de référence à l'individu. C'est le groupe, comme le gospel à Atlanta, etc. Donc c'est parfaitement adapté à ces populations qui ont perdu les références catholiques traditionnelles et qui maintenant se font complètement dévorer par ces marchands de soupe qui nous viennent de ces sectes protestantes américaines. Voilà le problème religieux africain. Mais en RCA, nous avons la même chose avec l'opposant actuel qui appartient à une de ces sectes. Et c'est un problème qui, à ce niveau-là, vient s'ajouter aux problèmes ethniques traditionnels. Alors, je reviens à l'opposition ethnique en RCA. En 81, l'actuel président Patassé est pro-libyen. Il est pro-marxiste, pro-libyen, etc. Et il est aux portes du pouvoir. Souvenons-nous, en 81, la France s'est engagée directement contre la Libye. Nous sommes dans l'époque de confrontation avec la bande d'Aouzou, avec les fronts divers au Tchad, contre les Libyens. Et pour éviter la prise du pouvoir par les gens du Nord, c'est-à-dire par les Sahras, la France laisse, je mets entre guillemets, laisse prendre le pouvoir par un autre homme du Sud, qui est le général Kolingba. Le général Kolingba, qui est un Yakoma. Un Yakoma, c'est-à-dire une autre ethnie du fleuve. Toute petite ethnie, 200 000 membres, comme les Ngbaka. Et les Ngbaka, qui sont perdants, vont tout de même accepter le pouvoir des Yakoma. Pourquoi ? Parce qu'ils sont peut-être différents des Yakoma, mais ils sont du fleuve aussi. Donc ils ont quand même plus de points communs qu'avec les Sahara du Nord. Qui sont les Yakoma? Ben, les Yakoma, ce sont les Ngbandi, la grande ethnie du Nord du Zaïre, qui est l'ethnie du président Mobutu. Mobutu est un Ngbandi. Au nord du fleuve, les Ngbandi s'appellent les Yakoma, et au sud, ils s'appellent les Ngbandi. Ce qui fait que les Yakoma adossés au Congo Zaïre de Mobutu vont être au pouvoir sans aucun problème. Et de 81 à 93, la RCA est gouvernée par les Yakoma. Patatrac, la démocratie arrive. Le diktat démocratique. Le général Kolingba doit organiser des élections. Je vous ai dit, les Yakoma, 200 000 personnes, 5% de la population. Les Ngbaka, 200 000 personnes, 5% de la population, ça fait 10%. Il y en a quand même 90% autres. Il est bien évident que les 90% vont être plus nombreux que les 10%. Et Ange-Félix Patassé, qui est un Sahara, va réussir une alchimie en rassemblant autour de lui les ethnies du centre, du nord-ouest et du nord. Donc il gagne les élections. Le voilà président. Mais l'armée est Yakoma. Car le général Kolingba, en 10 ans de pouvoir, avait transformé l'armée de RCA en une armée ethnique. Donc une armée d'Yakoma. Ce qui fait que Patassé arrive au pouvoir, élu par 65 ou 70% de la population, et il se trouve menacé en permanence par une armée Yakoma. Donc il est évident, s'il veut survivre, qu'il doit casser cette armée Yakoma. Pour éliminer les Yakoma et pour faire entrer les gens des ethnies qui le soutiennent dans cette armée. 96, mutinerie des Yakoma qui refusent d'être chassés de l'armée, guerre civile. Patassé l'emporte et Patassé va monter un régime ethnique basé sur les ethnies du nord-ouest. Donc après avoir eu, depuis l'indépendance, le pouvoir en RCA tenu par les hommes du fleuve, nous voyons les hommes de la savane et de la zone préforestière du nord-ouest qui arrivent au pouvoir. Succession de putsch, car les Yakoma sont toujours dans l'armée. Putsch, mais des putsch minuscules qui se déroulent dans des quartiers de Bangui. Ce ne sont pas des putsch à l'échelle du pays, ce sont des compagnies qui se soulèvent. C'est 300 hommes, c'est 400 hommes qui se soulèvent. Et pendant tout ce temps-là, la France règle les problèmes. Parce que tant que la géopolitique n'est pas réglée dans le conflit avec la Libye, la France qui est présente au Tchad doit conserver ses bases arrières en République centrafricaine. Et puis le contexte politique va changer. Kadhafi n'est plus l'ennemi. Kadhafi même devient presque un partenaire pour la France. Et la question du Tchad est réglée. Elle est réglée pourquoi? Parce qu'enfin la France comprend qu'il faut laisser les nordistes prendre le pouvoir et que les nordistes, qui sont les anciens maîtres et les anciens esclavagistes, ne peuvent pas accepter d'être dominés par leurs anciens esclaves du Sud, contrairement à ce que nous avions voulu faire au moment de l'indépendance. Donc les nordistes reprennent le pouvoir, donc il n'y a plus de problème au Tchad. Ils vont se battre entre eux, entre clans, entre tribus, mais ça restera toujours entre nordistes. Donc à partir de ce moment-là, le pouvoir est stable au Tchad, même si des chefs peuvent sauter, mais ce sont toujours les tribus du Nord qui vont contrôler le pouvoir. À partir de ce moment-là, la RCA ne sert plus à rien. D'autant plus que la situation devient de plus en plus mauvaise, et la France abandonne les bases françaises de RCA. À partir de ce moment-là, la RCA n'intéresse plus personne. Et la RCA s'enfonce. Elle s'enfonce. En 99, le président Patassé est réélu, mais il n'a plus que 52% des voix. Donc la coalition ethnique nordiste et du nord-ouest est en train de se fissurer. Elle est en train de se fissurer parce qu'il va perdre l'appui des Gbaya. Les Gbaya qui représentent 13 à 15% de la population et qui le lâchent. Alors que les Gbaya avaient été un de ses plus fermes soutiens. 6 putsch en 10 ans, une situation complètement ingérable. Et en octobre 2002, le général Bozizé, qui est un des chefs principaux de l'armée centrafricaine, et qui est le pasteur d'une secte protestante, ou d'une église charismatique, enfin, il est difficile de s'y retrouver dans ces divisions, et le général Bozizé organise un putsch. Or, Bozizé a derrière lui l'Egbaya, qui constituait un des éléments de soutien de Patassé. Donc l'anarchie se développe. Et à la différence des coups d'État précédents, qui étaient des mutineries qui touchaient certains quartiers de Bangui, là, la mutinerie va s'emparer d'une partie de la République centrafricaine, notamment tout le nord, et toute une partie de l'ouest de la République centrafricaine. Et aujourd'hui, une partie du pays est entre les mains de la rébellion. Alors, nous assistons à un renversement complet de perspective. Pourquoi ? Parce que le président Patassé, pour se maintenir au pouvoir, doit faire appel à des rebelles congolais qui viennent de l'ancien Congo Zaïre, qui sont les rebelles du chef de guerre Bemba, qui sont essentiellement des Ngbandi, donc qui sont apparentés au Yakoma, qu'il a combattu pendant des années. Et au même moment, lui qui est Sara, donc dont l'ethnie est essentiellement installée dans le sud du Tchad, doit faire face à un téléguidage de la rébellion depuis le Tchad, alors que lui-même, étant Sara, est apparenté à des ethnies du sud du Tchad. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les nordistes qui sont au pouvoir au Tchad, ces hommes du désert qui sont au pouvoir au Tchad, vont toujours essayer d'affaiblir leur sud, qui est toujours séparatiste. Donc, ça sent le pétrole dans la région. Ce sud qui est séparatiste, et pour affaiblir ce sud séparatiste, ils ont intérêt à affaiblir le pouvoir d'un Sara qui est au pouvoir en République centrafricaine. Parce que ce Sara au pouvoir en République centrafricaine peut peut-être demain avoir l'idée de soutenir ses frères qui vivent au Tchad, ce qui recréerait une rébellion sudiste au Tchad. Alors voilà donc le grand problème de la Centrafrique. Et là encore, nous sommes parfaitement dans un cadre ethnique et dans un cadre de non-adéquation des frontières avec les réalités ethniques. Tout le reste, c'est du baratin. Le terme, c'est un terme un peu trivial, tout le reste est du baratin. Là est la réalité africaine.
Puis le cas du Tchad a été, dès les années 60, dès l'indépendance, le laboratoire où on a pu vérifier cette réalité-là.
Tout à fait.
Le régime Tombalbaï a immédiatement été contesté par les Toubous. Et l'histoire du Tchad a été ensuite, pendant près de 30 ans,
empoisonnée
de l'opposition entre le Nord et le Sud. Et les nordistes, effectivement, sont arrivés au pouvoir tout en étant très minoritaires, d'ailleurs, dans le pays. Mais
jusqu'au moment où la France eut l'intelligence de laisser l'histoire se dérouler, et eut l'intelligence de laisser les nordistes prendre le pouvoir, et l'affaire a été réglée. Même si les nordistes se battent entre eux, parce qu'ils sont excessivement divisés entre eux. Voilà la réalité africaine. Bien. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Je rappelle également que nous parlons de l'Afrique à propos de la sortie du numéro 38 de l'Afrique réelle. L'Afrique réelle qui est en vente par abonnement boîte postale numéro 603-140 à Charroux. Boîte postale numéro 603-140 à Charroux, uniquement par abonnement. Et le prix de l'abonnement pour les 4 numéros de l'année est de 58 euros. Victoria, avons-nous des questions d'auditeurs sur cette question de Centrafrique ou des remarques d'auditeurs ?
Non, c'est plus général, c'est sur l'Afrique en général.
Allez-y.
Que pensez-vous de la réflexion du général de Gaulle, à qui on posait la question « Qu'adviendra-t-il de l'Afrique quand nous partirons ?»
Le retour au chaos.
L'Afrique sort du chaos et retournera au chaos. Et alors, est-il indispensable de se préoccuper de ce continent ? Si nous ne l'aidons plus, sera-t-il capable de s'en sortir tout seul ? Et puis là, c'est un petit détail. J'ai vu récemment à La Rochelle un bateau immatriculé à Pointe-Noire. Pensez-vous qu'il y ait des pêcheurs du Congo qui se réfugient en France ?
Oui. Bon. Voilà, mais écoutez, merci de votre précision, cher auditeur. Bon, Philippe Conrad, oui. Je crois que nous abordons maintenant le problème du dossier central de l'Afrique réelle, à propos des ethnies, n'est-ce pas ?
À propos de l'histoire africaine telle qu'elle est enseignée et visitée par certains, en particulier un certain Jean-Louis Chrétien,
Jean-Pierre
Chrétien, pardon, qui notamment à propos de l'Afrique des Grands Lacs, à propos de l'Afrique centrale, a commis il y a quelques mois un ouvrage particulièrement discutable dans la mesure où il récidive en expliquant que les Tutsis sont une pure création coloniale, enfin la distinction entre Tutsis et Hutu, en niant donc un certain nombre d'évidences sur le plan de la nature des des populations concernées. Alors c'est une dérive qui est très présente dans toutes les études africaines en France. On a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Alors ça a été repris, ce thème a été repris par la revue L'Histoire, qui fait autorité dans un certain nombre de milieux enseignants et étudiants. Et il est clair qu'apparemment tous ces braves gens n'ont jamais lu votre histoire du Rwanda.
Mais surtout,
qui je crois avait fait sur ce point représentait sur ce point une synthèse aussi remarquable que définitive.
Oui, alors, en fait, nous avons consacré un très gros dossier au problème ethnique dans ce numéro de la FAQL. Pourquoi ? Parce que au mois de juillet-août 2002, la revue L'Histoire a sorti un numéro spécial consacré à la guerre. Et dans ce numéro spécial consacré à la guerre, la revue L'Histoire a consacré plusieurs articles à la question ethnique. Notamment un article intitulé « D'où vient la haine entre Hutu et Tutsi ?» Et à propos de ce problème Hutu-Tutsi, la revue Histoire développe les poncifs les plus éculés, avec un recul de plus de 20 ans par rapport à l'état des connaissances, quant au problème ethnique. Et ceci nous a paru tellement, tellement énorme dans une revue qui se prétend une revue sérieuse, que nous avons répliqué point par point à la revue L'Histoire. Et nous avons repris tous les arguments développés par la revue, et nous avons consacré plusieurs articles à cette question, pour bien montrer que les ethnies ne sont pas des créations coloniales, mais sont des éléments qui existaient, qui préexistaient à la colonisation. Parce qu'en fait, quelle est l'idée générale ? L'idée générale, l'homme blanc est coupable de tout. En Afrique, si la situation est ce qu'elle est, c'est la faute des blancs. C'est la faute des blancs, pourquoi ? Nous disent ceux qui battent leur coulpe. Premièrement, parce que l'esclavage a vidé l'Afrique de sa population. Erreur. Deuxièmement, parce que la colonisation a pillé l'Afrique. Erreur. Et troisièmement, parce que les échanges inégaux de l'époque postcoloniale ont achevé d'enfoncer l'Afrique dans le sous-développement. Et quant au problème des affrontements qui ont lieu entre les populations, c'est la principale perversité de la colonisation, nous disent toujours les mea culpiens, toujours la principale perversité, pourquoi ? Parce que les colonisateurs, pour diviser les populations noires, qui étaient sans doute fraternellement unies quand coulaient les fontaines de lait et de miel de la période précoloniale, les ont divisées en ethnies, là où il n'y avait que des classes sociales. Vous voyez le bon vieux schéma marxiste. Les riches étaient les Tutsis, par exemple au Rwanda, ils avaient des vaches, et les pauvres étaient les Hutus, parce qu'ils cultivaient la terre. Et pourquoi les riches pouvaient-ils être un peu différents des pauvres ? Parce que comme ils avaient des vaches, ils buvaient du lait. Et comme ils buvaient du lait, ils avaient plus de calcium, donc ils grandissaient plus que ceux qui mangeaient que des pommes de terre ou des patates douces. Voilà, docteur, pourquoi votre fille est muette ? Eh bien, c'est sur de telles imbécilités que repose la vulgate officielle qui est enseignée dans les universités françaises. Et lorsque j'explique que cela n'est pas le cas, j'ai droit à des pétitions. J'ai quand même eu 55 de mes collègues, collègues ou paracollègues ou pseudo-chercheurs ou lapins de coursive du CNRS qui ont signé une pétition au ministre de l'enseignement supérieur lui demandant que je sois rétrogradé et sévèrement puni parce que j'avais une approche ethnique de l'histoire africaine. Or qu'il est évident que les ethnies n'existent pas en Afrique. Ce sont les colonisateurs et les missionnaires qui ont créé les ethnies. Alors nous avons donc un très gros dossier dans l'Afrique réelle qui est consacré à cela, un dossier qui est fondamental, qui est un dossier de réfutation. Moi, j'engage vraiment les auditeurs à se le procurer, à le photocopier, à le distribuer, à l'envoyer partout, parce que là, il y a vraiment un outil de combat, car le but de l'opération, c'est véritablement la culpabilisation des Européens. Il faut que tous les drames de l'Afrique soient attribués à des Européens, de façon à ce que l'on puisse accepter l'invasion, le transfert de population et la rançon pour l'éternité. Nous devons accepter les transferts de population en dédommagement des crimes hypothétiques que nous aurions commis en Afrique, et nous devons payer pour l'éternité en dédommagement du pillage que nous avons opéré en Afrique. Et quand l'on dit, oui, mais attention, mais les ethnies qui se battent, nous ne sommes pas responsables. Si, mais nous sommes encore plus responsables, car c'est nous qui les avons créés. Alors là, nous sommes dans le masochisme et dans la manipulation de l'histoire la plus totale, et c'est pour cela que nous avons fait ce dossier qui est consacré à la question. Bien, Nous allons peut-être passer à autre chose. Dernière petite remarque d'auditeur sur l'Afrique.
Non, on vous demande si vous pourrez parler un jour de l'Angola.
Alors, nous avons parlé plusieurs fois de l'Angola. Nous avons eu plusieurs émissions consacrées à l'Angola. Non, pour le moment, il n'y a pas d'actualité sur l'Angola, donc inutile d'y revenir.
Et un officier coopérant au Tchad dans l'armée tchadienne. La recherche pétrolière au Tchad est dirigée par une société américaine, Exxon. Cela montre la mainmise des Américains sur le pétrole mondial. Et on vous demande de quelle ethnie font partie les Ébriers.
Alors, oui, ce sont des Akans. Ce sont des Akans, oui, c'est une sous-branche des Akans, tout à fait. Ce sont ceux qu'on appelait les lagunaires, mais qui sont apparentés aux Akans. Et qui sont effectivement alliés, en partie, au BT, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, nous avons une alliance entre trois ensembles. L'ensemble ethnique Krou, nous parlons de la Côte d'Ivoire, l'ensemble ethnique Krou-BT, avec deux petits ensembles à Caen qui sont associés, les Atiers et les Ébriers. Les Ébriers, d'où le nom de la lagune Ébrier, etc., sont ce qu'on appelle les lagunaires, mais qui sont apparentés aux Akans. Voilà.
Bien. Vous avez parlé tout à l'heure de votre livre. Est-ce que vous pouvez redonner le titre et...
Oui, le livre...
God Bless. Un auditeur vous reproche d'avoir donné un titre anglais à ce livre.
Oui, comme c'est un livre qui sort également en anglais, et étant donné que ce livre sera boycotté en France, mais qu'il sera vendu en Angleterre, je trouve que c'est amusant de le titrer en anglais. C'est un livre qui est fait essentiellement pour le public anglo-saxon, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas, dans le monde anglo-saxon, les pudeurs et les censures qu'il y a dans la presse française. Donc ce livre va se vendre normalement en France, mais il est destiné surtout au public anglo-saxon, là où les gens, en Angleterre notamment, n'ont pas d'idéologie qui leur bouche les yeux comme des pots de saucisson, l'ont mes collègues de l'université. Alors, God Bless Africa, contre la mort programmée du continent noir. Comme c'est un livre qui sort à la fois en anglais, en russe, en espagnol, en portugais, il fallait quand même trouver un titre international. Je voulais pas mettre un titre espagnol, n'est-ce pas? Donc, God Bless Africa, je pensais pas mal. Ça montre bien que ce livre est très positif et les valeurs positives qu'il véhicule. Donc, God Bless Africa, je vous dirai pas le titre en russe parce que je ne lis pas le cyrillique. Et contre la mort programmée du continent noir. C'est un livre qui est publié aux éditions Carnot. Alors, si les éditeurs veulent ce livre dédicacé, ils n'ont qu'à le commander à l'Afrique réelle, la même adresse. Nous leur enverrons un formulaire d'achat. Autrement, ils le trouvent en vente dans toutes les bonnes librairies. Je précise que plusieurs libraires importants ont boycotté mon livre. Notamment, je ne peux pas citer à l'antenne les gens qui ont boycotté, car il est interdit de faire du boycott, mais certaines librairies de Bordeaux, de Paris, de Lyon, etc., ont boycotté. Donc, achetez ce livre chez ceux qui ne boycottent pas. Il y a des libraires qui sont des libraires sympathiques et amis. Faites travailler les libraires sympathiques et amis, plutôt que d'aller acheter dans certaines grandes surfaces qui boycottent. Pas toutes, d'ailleurs. Mais autant aller chez ceux qui ne participent pas à cette entreprise stalinienne de boycott.
Quel est son prix ?
Alors, bonne question. Je ne sais pas. Je n'ai pas le livre sous les yeux. Le prix du livre. Écoutez, vous le verrez, chers auditeurs, en achetant le livre. Le livre, le prix du livre.
20 euros.
Le prix du livre. Non, mais je n'ai pas le prix. Il doit être.
Non. 20 euros, non ?
Vous n'avez pas le livre sous la main ? Personne n'a le livre ? Bon, attends. Peu importe.
Un auditeur proteste quand vous dites qu'il n'y a pas d'actualité en Angola. Le président a déclaré récemment son accord pour donner un statut d'autonomie au Cabinda. Qu'en pensez-vous ?
Oui, mais c'est un statut d'autonomie qui est un statut d'autonomie comme le pâté d'alouette. Quel statut d'autonomie peut avoir le Cabinda, qui est le baril de pétrole angolais et qui est peuplé par des Congos qui sont en guerre permanente et qui sont soutenus par le bloc Congo qui se trouve de l'autre côté de la frontière? Non, c'est un habillage qui est fait pour désarmer la campagne internationale qui est menée contre l'Angola. Non, mais il n'y a pas d'actualité en Angola en ce moment.
C'est tout voilà. Pour le moment.
Bien. Alors, chers auditeurs, je rappelle donc l'adresse de l'Afrique réelle. Boîte postale numéro 6, 03 140 à Charroux.
Pardon ? Et de l'abonnement pour les...
Eh oui, l'abonnement pour les 4 numéros, 58 euros. Oui, Philippe Conrad me parlait de la référence à l'histoire de la colonisation britannique d'Oxford. Non, je n'ai pas le temps de développer là en quelques minutes. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Nous consacrerons ce point, si vous voulez, lorsque le mois prochain, nous ferons une émission qui parlera de mon livre, plus en détail, parce que le livre que j'ai publié est un livre qui propose des solutions, pour la première fois. Alors que je ne me contente pas dans ce livre de faire un état des lieux, je m'étais promis de ne pas donner d'axe de direction de solution, mais vu la catastrophe africaine qui s'amplifie, il est temps tout de même de donner un certain nombre d'axes dans lesquels il conviendrait de réorienter l'approche politique du continent africain. Donc c'est un livre qui est important et nous en parlerons de cela lors de la prochaine émission.
Avant de passer à la deuxième partie, vous pourriez nous dire où nous en sommes dans l'inquisition contre M. Lugan?
Ah bien, écoute,
j'ai plusieurs questions là-dessus.
Quel genre de questions?
Où en sommes-nous dans l'inquisition contre M. Lugan et où en est le déroulement de votre procès contre le maire de Paris?
Ah, ça avance.
Qui n'est pas seulement le maire de Paris, mais aussi le directeur du Figaro, je crois.
Ah oui, mais oui, oui, vous faites allusion à l'acte héroïque de la direction du Figaro Magazine, qui, cédant aux injonctions de M. Delanoë, m'a exclu de la fête du livre du Figaro Magazine il y a 2 ans. Et la mairie de Paris qui a fait distribuer des petits documents avec ma photo aux sbires de la mairie pour m'interdire de rentrer, etc. Oui, la plainte que j'ai déposée au chef de discrimination avance. Elle avance très fort dans la mesure où il semblerait, d'après les indiscrétions de couloir, que les premières mises en examen devraient tomber incessamment. Et il semblerait que cette affaire va être une affaire à suivre et va être tout à fait intéressante à suivre. Il semblerait que pour le moment, ce serait plutôt du côté du Figaro qu'il y ait des menaces judiciaires, puisque le Figaro prétend que M. Delanoë ne lui a pas demandé de m'écarter, mais que mes idées ne correspondant pas à la ligne du Figaro, j'avais été écarté du Figaro parce qu'il y avait un surbooking d'auteurs au dernier moment. Oui. Et donc, c'est une piètre explication qui, semble-t-il, n'a pas totalement satisfait le juge d'instruction, ni le parquet. Donc, affaire à suivre. Je tiendrai les auditeurs au courant du déroulement de ce feuilleton. Autrement, je viens de gagner un procès à Lyon, la semaine dernière, contre le syndicat UNEF. J'ai gagné le droit de continuer à poursuivre, plutôt, parce que le juge d'instruction avait décidé, de son propre chef, que le délit commis à mon encontre par l'UNEF, qui m'avait diffamé, était amnistié par l'amnistie présidentielle à la suite de l'élection présidentielle. Or, cette amnistie ne s'applique pas aux fonctionnaires publics. Donc j'ai dû faire un appel devant la cour d'appel de Lyon, qui a donné tort au juge d'instruction, et la cour d'appel de Lyon a désigné un nouveau juge d'instruction pour reprendre ma plainte contre l'UNEF. Donc le jeu de loi continue, donc une nouvelle victoire judiciaire, mais je vous tiendrai au courant, chers auditeurs. L'essentiel est de ne pas baisser les bras et de se battre, et d'être là où tape le canon.
Vous ne souhaitez pas parler de l'affaire du journal Le Monde?
Si, nous allons en parler tout à l'heure, avec Dominique Vénère, dans la seconde partie de l'émission. Alors, chers auditeurs, une pause musicale avant d'introduire la seconde partie.
Avant. Est-ce que je peux vous faire une petite annonce? Le chœur Montjoie-Saint-Denis profitera... excusez-moi. Le chœur Montjoie-Saint-Denis fêtera Mardi Gras chez la Mère Agitée, le mardi 4 mars, à partir de 20h30. Dîner, 25 euros. Et pour vous inscrire, 01 43 35 56 64. Tout le monde connaît l'adresse de la Mère Agitée,
l'adresse.
35 rue Campagne Première. Je crois que c'est 35.
Oui. 35 rue Campagne Première, c'est dans quel arrondissement?
C'est le 14e.
Une brève pause musicale avant de présenter la seconde partie de l'émission. Notre invité vient d'arriver, Daniel, je le présenterai également tout à l'heure.
Thank you.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Nous recevons notre dernier invité qui vient d'arriver, Jacques Hogard, qui est colonel en retraite et qui est le neveu d'un homme que nous apprécions tous, beaucoup, qui était le grand Guylain de Bénouville. Donc nous parlerons tout à l'heure de la personnalité de Guylain de Bénouville, de votre oncle, à propos de l'affaire Jean Moulin et à propos des mensonges qui ont été, et des calomnies et qui ont été proférées ici ou là depuis à peu près un mois. Alors avant de passer à ce cœur central de l'émission et avant de passer à la coupure technique de 7h30, Dominique Vénère voulait apporter deux ou trois précisions. À propos de cette question, parce que la nouvelle revue d'histoire va traiter de cette question, n'est-ce pas, Dominique?
Oui, parfaitement. Le prochain numéro de la nouvelle revue d'histoire, qui sera dans les kiosques le samedi 6 mars, a tout à la fois un dossier central qui est consacré à la Russie et à l'Europe, dossier très riche, un dossier qui est consacré à la nouvelle affaire Jean Moulin, dont nous allons parler dans un instant. Et puis, nous avons ajouté un dossier complémentaire, ce qui explique le léger report de parution de la revue, encore une fois, au 6 mars, parce que nous avions quelque chose à dire par rapport à une question d'actualité très importante, la publication de ce livre qui fait dès maintenant beaucoup de bruit, le livre de Pierre Péan et Philippe Cohen, La face cachée du monde. Oui, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. La publication de ce livre est un événement politique de première grandeur en raison du contenu du livre, extrêmement documenté, en raison de ceux qui l'ont à la fois écrit, de ceux qui l'ont publié et de ceux qui l'ont soutenu, car l'ensemble du dispositif de ce que l'on peut appeler dans le monde médiatique le politiquement correct, qui est en train de sauter avec la publication de ce livre. Ce livre n'a pas été publié par des adversaires politiques du monde, comme des gens de droite par exemple, mais par des gens qui viennent grosso modo d'une même origine, qui ont en tout cas beaucoup de points communs. Et de tout cela nous parlons dans le prochain numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire, mais nous replaçons les choses historiquement, car l'un des aspects du dossier du Monde, c'est la présence de trotskistes au plus haut niveau dans la rédaction du Monde depuis maintenant plus d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années même. C'est une opération d'entrisme trotskiste tout à fait importante. Et nous rappelons quelles sont les origines du trotskisme en France, comment ce phénomène s'est développé et comment il a pu prendre pied dans le monde. Donc, dossier dans les kiosques le samedi 6 mars, à partir du samedi 6 mars. Dans
jeudi 6 mars, Dominique.
Oui, peu importe. Le 6 mars.
Jeudi 6.
Alors dans ce cas-là, c'est bien le samedi, donc ça doit être le 8 mars.
Samedi 8h.
Samedi 8 mars, dans les kiosques, la nouvelle revue d'histoire.
Et nous développerons cette idée lors de notre prochaine émission de Radio Courtoisie, le 19 mars. Coupure technique.
Le livre, avant, je vous dis que le livre de Bernard Lugan coûte 20€ et La mer agitée, mea culpa, est au 21 rue Campagne Première.
Et amun corante fici justi vici eris in terminibus tuis justi viceris in terminibus tuis et vitas.
Merci de passer la soirée en notre compagnie. La suite du programme à 21h tout à l'heure avec les soirées musicales. Première partie que j'aurai le plaisir de passer avec vous pour Série Jazz. Et puis à 22h précise, rendez-vous avec Claudio qui consacre son émission sur les musiques de films ce soir à l'âge d'or du cinéma d'avant 49. Et puis tout de suite, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Beckage, dirigé par Bernard Lugan. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 26 février 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 27 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Nous allons parler dans cette seconde partie de l'émission de l'affaire Jean Moulin. Alors pourquoi parler de l'affaire Jean Moulin ? Eh bien pour une raison très simple, il y a quelques semaines, le 6 et le 13 janvier, une fiction a été consacrée à cette importante personnalité de l'histoire contemporaine française par TF1. Et à cette occasion, un certain nombre d'énormités ont été dites, un certain nombre d'absurdités et un certain nombre de calomnies. L'on pourrait, pour résumer cette thèse et pour résumer la philosophie de ces deux émissions, l'on pourrait dire qu'en fait, le but de leurs auteurs, de leurs producteurs, semble être le suivant. Tenter de montrer qu'il n'y eut que la gauche qui collabora. Tenter d'effacer... Qu'il n'y eut que la gauche qui résista. Et dans cette opération, il convient d'évacuer toute référence à une résistance de droite. Oubliant, bien entendu, que la gauche ne résista que tardivement, tandis que...
Collabora très souvent, et fort tôt.
Tandis que la première résistance fut une résistance de droite. Et souvent une résistance, d'ailleurs, qui émanait des milieux de l'Action française, et des milieux traditionnalistes, et des milieux nationalistes en général. Et dans ce combat, qui semble être un combat pour l'élimination de toute référence à une résistance de droite, nous voyons le dénigrement systématique qui est fait des personnalités résistantes de droite. Et parmi le dénigrement, le dernier qui en est la victime est Guylaine Bénouville. Donc nous allons parler tout à l'heure de Guylaine Bénouville avec son neveu qui est ici présent, car il faut rendre justice à cette grande personnalité qui à laquelle je suis très attaché, parce que nous avons les mêmes origines, l'Action française. Ilan Benouville était un camelot du roi et qui restait fidèle jusqu'au bout à ses amitiés d'Action française et qui a gardé cette permanence de l'amitié et de la fidélité jusqu'au bout. Et il est important de gommer cet aspect de dénigrement et de calomnie qui apparaît à l'heure actuelle et qui est très nettement apparu dans ses émissions des 6 et 13 janvier. Alors, Jean Moulin est présenté, moi qui appartiens à une université qui a pour nom l'université Jean Moulin, Jean Moulin est présenté comme l'archétype du résistant. L'archétype du résistant, et surtout du résistant de la première heure. Et ce résistant de la première heure, dont le passé et les appartenances politiques crypto-communistes ou communistes sont toujours gommés, ce résistant de la première heure, présenté donc par les médias, est arrêté. Il est arrêté, et à partir de cette arrestation, toute une philosophie, toute une saga, toute une déformation de l'histoire se met en place. Alors, j'aimerais demander d'abord à Dominique Vénère, qui connaît parfaitement cette question, puisque, rappelons-le, vous avez publié, Dominique Vénère, une histoire critique de la résistance chez Pygmalion. Histoire critique de la résistance chez Pygmalion, vous êtes bien placé pour répondre à la première question que j'aimerais vous poser, qui est la suivante. Dans quel contexte va se faire, dans quel contexte politique, dans quel contexte de rivalité entre les diverses obédiences résistantes, entre les divers mouvements de résistance, va se faire l'arrestation de Jean Moulin?
Eh bien, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que l'arrestation de Jean Moulin, cette arrestation de Caluire, qui aujourd'hui est présentée comme l'épisode central de la résistance, de l'histoire de la résistance, à l'époque, fut en réalité un incident mineur. Tout à la fois, la personnalité de Jean Moulin, comme vous le disiez, qui est aujourd'hui considéré comme personnage central de la résistance, et l'affaire de Caluire, au centre de tout, cela, c'est une fabrication qui est bien postérieure à la Seconde Guerre mondiale et bien postérieure à l'histoire authentique et réelle de la résistance. C'est le résultat d'une double opération politique, initialement conduite par le Parti communiste, en raison, nous y reviendrons, de certains, tout à la fois de liens qui existaient entre le mouvement communiste dans son ensemble et Jean Moulin. C'était un homme de gauche de ce qu'on appelle l'espèce antifasciste, nous y reviendrons également. Bref, pour le Parti communiste, Jean Moulin était une personnalité qu'il convenait de mettre en avant. Jean Moulin avait servi certains intérêts du Parti communiste, ce qui fait que, postérieurement à 1945, dans toutes les opérations de montage, de réécriture de la guerre, de la réécriture de l'histoire, entreprise par le Parti communiste, le mythe des le parti des 75 000 fusillés, etc., l'affaire Jean Moulin s'inscrit dans cette stratégie communiste de réécriture de l'histoire, de la résistance et de la guerre. Et cette opération a bénéficié de différents soutiens politiciens qui, eux, sont un peu postérieurs, c'est-à-dire que le parti gaulliste, après son retour au pouvoir en 1958, après le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958, a vu aussi un intérêt dans le développement du mythe de Jean Moulin et du mythe de l'affaire de Caluire. Mais, comme je le disais à l'instant, à l'époque, cette arrestation n'a pas été ressentie comme un événement capital et important, et j'en veux pour preuve ce que l'on en trouve dans les premiers récits des résistants. c'est-à-dire dans les mémoires, souvenirs, etc., des résistants, écrits jusque dans les années 55-58, l'affaire de Caluire et Jean Moulin ne sont très peu évoqués. Ce n'est que postérieurement, par une réécriture de l'histoire, comme je le disais, que cet événement, peu à peu, est devenu l'élément central de l'histoire de la résistance. Alors, il faut comprendre le contexte, en effet. Quel est le contexte de 1943, de juin 1943? Quel est le contexte dans l'histoire même de la résistance? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la résistance intérieure, dans sa création et dans son développement, ne doit rien au général de Gaulle. Le général de Gaulle joue un rôle historique considérable, bien entendu, mais il n'est en rien le créateur de la résistance intérieure. Pour une simple raison, c'est que il n'existe, jusqu'en 1942, pratiquement aucun lien, sinon par l'intermédiaire de quelques individus, il n'existe pratiquement aucun lien entre Londres et la France. Les deux parties de la France, au nord occupée, zone occupée, et au sud, la zone libre, la zone non occupée. La résistance intérieure, en réalité, va être créée et va se développer à l'initiative soit d'individus, nous allons en évoquer rapidement quelques-uns, soit de l'armée d'armistice, que l'on appelle habituellement l'armée de Vichy. Bon. C'est au sein de l'armée d'armistice, armée en tant que telle, services de renseignement, services secrets qui sont ceux de l'armée, que les premières initiatives sont prises très tôt, dans les jours même qui suivent la signature de l'armistice de juin 1940. Un peu plus tard, dans les mois qui suivent, à l'initiative souvent d'anciens militaires et souvent d'anciens ou de militants de ce qu'on appelle habituellement l'extrême droite, membres de l'Action française, Camelot du Roy, mais membres également d'autres groupements, notamment un certain nombre d'anciens croix de feu, c'est à l'initiative de ces hommes-là que vont être créés les premiers germes des futurs mouvements de résistance et des futurs réseaux de résistance. À l'origine, ces gens-là ne se connaissent pas entre eux. Les liens n'existent pas. Les liens ne vont se tisser que lentement et progressivement dans le courant de l'année 1941. Jusqu'à ce moment-là, d'ailleurs, Jean Moulin n'intervient en rien. Il n'est absolument pas un résistant. Ce qu'il faut comprendre aussi, qui joue un grand rôle dans les conflits ultérieurs au sein de la résistance, c'est que ces premiers mouvements de résistance, créés à l'initiative de quelques hommes, ces premiers mouvements de résistance épousent l'esprit de la France de l'époque. Ces mouvements se créent naturellement en réaction contre la défaite. Et étant donné qu'ils sont sur place en France, tous ces hommes savent très bien que la défaite a une cause, c'est-à-dire le régime politique précédent, la Troisième République, et les hommes de la Troisième République. Et les premiers résistants, y compris les hommes de gauche, tels que Emmanuel Dacier de la Vigerie, etc., dans leur première attitude, sont absolument opposés, ils sont en révolte contre le régime déchu, contre la Troisième République, contre ses institutions, ses mœurs et ses hommes. Et comme eux, ces résistants de la première heure, engagent un combat qui va être dangereux, et nombre d'entre eux vont y laisser la vie, ils ont conscience de représenter la France de demain. Ils ne se contentent pas de lutter contre l'occupant, l'Allemagne, mais ils veulent refaire la France. Et ils pensent que la France de l'avenir, c'est eux qui vont pouvoir la faire. Parce qu'ils représentent l'éveil d'une France nouvelle. Alors que la France d'hier, celle de la Troisième République, c'est la France de la défaite. Et tout leur combat, tout le combat de leurs idées, toutes leurs espérances seront animées par ce désir de bâtir une France nouvelle contre ce qu'a été la Troisième République. Or, à Londres, le général de Gaulle, dans la même période, lui a besoin des hommes de la Troisième République. Et ce sera une des causes, pas la seule, mais ce sera une des causes tout à la fois de grandes incompréhensions et de grands conflits ultérieurs. Pourquoi le général de Gaulle a-t-il besoin des hommes de la Troisième République ? Eh bien parce que le général de Gaulle est seul, d'abord. Une très longue période, pendant les deux premières années de l'occupation de la France et de l'histoire de la France libre à Londres, le général de Gaulle reçoit très peu de soutien de personnalités importantes. Lui-même reste un quasi-inconnu. Il n'est rien. Sa notoriété, elle est due essentiellement au soutien que lui apporte Churchill. Mais c'est un soutien qui est conditionnel, car Churchill veut d'un De Gaulle instrument. Il ne veut pas d'un De Gaulle indépendant. Or, De Gaulle est indépendant. De Gaulle a une haute idée à la fois de son rôle et de la France. Et il se considère comme le représentant de la France. Et donc, il ne veut pas se soumettre aux injonctions, aux volontés, à la stratégie, au désir de Churchill. Par ailleurs, le général de Gaulle va rencontrer très tôt, pour un certain nombre de raisons, l'hostilité des Américains. Et à l'égard des Américains eux-mêmes, il a besoin de recevoir une légitimité. Cette légitimité, il faut qu'elle lui vienne tout à la fois de la résistance intérieure qui se développe, mais qu'elle lui vienne aussi des hommes qui ont, aux yeux des Américains et des Anglais, sont les représentants légitimes de la démocratie française, c'est-à-dire les hommes de la Troisième République. Donc De Gaulle, dans sa stratégie complexe, aura le désir tout à la fois de mettre la main sur la résistance intérieure, pour la contrôler, mais pour s'en servir aux yeux des alliés, et il aura le désir également de recevoir le soutien des hommes, des politiciens de la Troisième République, car c'est important aux yeux des alliés. Et c'est dans ce contexte-là que va intervenir Jean Moulin, et que Jean Moulin va jouer un rôle important.
Alors j'aimerais revenir sur un point que vous évoquiez au début de votre intervention, Dominique Venner, et j'aimerais me tourner vers Jacques Hogard pour revenir sur ce point fondamental qui est celui de la manœuvre qui est à l'heure actuelle destinée à tenter d'évacuer de la mémoire collective française le rôle de la résistance de droite au profit d'une résistance qui n'aurait été qu'une résistance de gauche. Alors Jacques Hogard, je rappelle que vous êtes colonel de réserve, et je rappelle que vous êtes le neveu d'un des grands résistants de droite, qui est Guylain de Bénouville.
Et qui est mis en cause.
Alors nous parlerons tout à l'heure de sa mise en cause, mais alors pouvez-vous nous parler de cette tentative d'occultation de l'histoire qui vise à ne tenter de présenter la résistance que comme une émanation de la gauche ?
Je voudrais un petit peu de, comment dirais-je, d'indulgence de la part des auditeurs, parce que je ne suis pas historien comme les éminentes personnalités qui sont autour de cette table. Je suis très honoré que vous m'ayez fait signe ce soir, parce que mon oncle n'avait pas d'enfant. Il a des neveux et nièces qui lui étaient très attachés, et dont je suis, et pour lesquels il était un peu un espèce de héros mythique, qui surgissait dans notre vie plus ou moins fréquemment depuis notre enfance, mais qui était vraiment un héros mythique. Et je me souviens de sa première dédicace de son sacrifice du matin, alors que je devais avoir 9 ou 10 ans. C'était quelque chose comme ce récit des combats secrets pour la liberté, sans laquelle la vie ne vaut rien. Donc ça, c'est le premier point. J'ai surtout, comme mes frères et sœurs, été indigné, évidemment, en janvier, quand ce téléfilm est sorti, mais je l'ai rattaché, évidemment, à toute une manœuvre qui existe déjà depuis un certain nombre d'années et qui n'est pas effectivement innocente, je crois qu'on en a un peu parlé, et qui vise donc à, systématiquement, en détruisant l'image, l'honneur de héros tels que lui, contester à la droite d'avoir été la première dans la résistance. Alors je crois qu'il y a un livre d'Alain Griotret qui était sorti il y a pas mal d'années maintenant, qui a été réédité ensuite, je crois, à l'âge d'homme.
La droite était au rendez-vous.
La droite était au rendez-vous.
Superbe livre.
Qui furent les premiers résistants. Mmh. Et dans ce livre qu'on trouve encore grâce à l'âge d'homme, il est évoqué un certain nombre de grandes figures de la résistance, des tout premiers résistants, comme le disait Dominique Lenner tout à l'heure, notamment Saint-Jacques, Fourcault, Loustounot Lacot, etc.
C'est un beau titre, La droite était au rendez-vous.
La droite était au rendez-vous. Et mon oncle, en particulier, Pierre de Ménouville. Alors, moi, je raisonne un petit peu, non seulement avec mon intelligence, mais aussi avec mes tripes, vous le comprendrez. Je prends un mot un peu militaire, mais on le pardonnera. Dans cette affaire, qui a démarré dans les années 80, la première mise en cause vient d'un garçon dont on aura l'occasion de reparler, qui est Daniel Cordier, a été dans sa jeunesse membre de l'Action française, et puis qui a tourné sa veste pour des raisons très particulières, d'amitié très particulière avec Jean Moulin. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais Daniel Cordier a renié toutes ses opinions de jeunesse, et je pense qu'il en veut à ceux qui sont restés fidèles à leurs opinions de jeunesse. C'est un argument personnel, mais je ne sais pas ce que les historiens en penseront. Mais donc il a, je dirais,
psychologiquement, ça se comprend très bien.
Bon, je pense qu'il a de vieux comptes à régler avec les gens qui, issus de sa famille de pensée, ils sont restés fidèles, tout simplement, comme vous le disiez en introduction. Donc Daniel Cordier, qui est...
On parlera de Cordier tout à l'heure. J'aimerais que vous nous présentiez rapidement les grandes figures de la résistance de droite.
Alors, les grandes figures de la résistance de droite, moi, je telles que j'ai appris à les connaître, il y a évidemment Rémy, l'agent numéro 1 de la France libre. Il y a évidemment on peut contester France libre ou résistance intérieure, parce qu'il y a des va-et-vient de part et d'autre, mais il y a évidemment des personnalités comme Maurice Duclos dit Saint-Jacques, ancien de la cagoule, qui a été un des leaders du BCRA pendant la guerre. Il y a Pierre Fourcault, qui sera après la guerre directeur général, ce qui est aujourd'hui la DGSE.
Oui, qui vient également de la cagoule.
Qui vient également de la cagoule. Il y a Gilbert Renaud, donc sensibilité très connue pour être monarchiste.
Et Renouvin.
Il y a Renouvin, bien sûr.
Il y a
les frères Camaret.
Bien sûr, les frères Camaret.
Il y a Alain Bénard. Il y a il y a qui encore. Il y a la Grandière qui tombera au combat dans un maquis du Morbihan en 44. Compagnon de la Libération également, ancien d'AF et ancien camelot du roi de la 17e section, comme mon oncle Pierre de Ménouville.
La 17e section connue et héroïque.
Section d'élite.
D'élite, qui a posé un certain nombre de problèmes à l'organisation.
Enfin, tout à fait.
Très belle section.
Section un peu indisciplinée.
Ah, moi, c'est ma préférée.
Mais une belle section.
C'est ma préférée.
Ils en étaient très fiers. Voilà, donc un certain nombre de personnalités qui ne venaient pas précisément de la gauche, ni même de ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement la droite, mais de la droite musclée de conquête, qui était la sienne.
Merci Jacques Oyard. Alors, avant de poser la question à notre ami Valla sur le contexte, entre guillemets, de la trahison qui aurait abouti à l'arrestation de Jean Moulin, j'aimerais revenir sur la personnalité de Jean Moulin avec Dominique Vénère. J'aimerais, Dominique Vénère, que vous insistiez sur sa personnalité et sur le rôle de Jean Moulin.
Alors, Jean Moulin, dans la résistance, c'est une sorte d'apparatchik de la résistance. Jean Moulin n'a pas recruté un seul combattant ou un seul militant de la résistance. Il a joué un rôle, bien entendu. Mais c'est un rôle administratif et politique. Il a utilisé des résistants, il a manipulé des résistants dans des intentions politiques dont je vais parler, en raison même de ce qu'il était. Alors, qui était-il ? Préfet de la Troisième République, franc-maçon, ayant joué un rôle très important à l'époque du Front Populaire, car il fut au cabinet de Pierre Cotte et, d'une façon générale, l'homme des actions secrètes au profit des Rouges pendant la guerre d'Espagne. Et ce rôle à l'époque n'était absolument pas connu. Tout cela, ce sont des actions qui étaient parfaitement secrètes, mais qui lui ont permis d'entrer en rapport avec les services secrets soviétiques et d'avoir par ailleurs des rapports extrêmement étroits avec les communistes et avec tous ceux qui soutenaient les Rouges pendant la guerre d'Espagne. Ces relations, ces liens particuliers vont jouer un rôle ultérieur. En 1940, il est préfet de Chartres. Il y a, lors de l'arrivée des Allemands à Chartres, un incident et qui est aujourd'hui mis en avant comme quelque chose de fondamental et de fondateur. Il s'insurge vraisemblablement contre le comportement des premières autorités allemandes qui arrivent à Chartres. Mais très vite après, il entretiendra avec les autorités allemandes des rapports de bon voisinage qui n'ont pas toujours été ceux de la préfectorale, parce qu'il y a des membres de la préfectorale qui, de façon très précoce, ont manifesté une résistance implicite. Lui, on ne peut pas dire que ce soit le cas, puisque il reste en fonction jusqu'à sa révocation par le gouvernement français, le gouvernement dit de Vichy, révocation le 2 novembre 1940, ce qui fait qu'il reste en poste pendant les 5 premiers mois du gouvernement de Vichy, où il fait d'ailleurs exécuter très normalement les lois, ordonnances, etc., dans tous les domaines. Lorsqu'il sera révoqué, les autorités allemandes de Chartres se plaindront parce que ils le considéraient comme un interlocuteur privilégié. À partir du 2 novembre 1940, il n'est plus en fonction, il est libre d'agir comme il l'entend. Alors, on a reconstitué, ou différents historiens, Daniel Cordier lui-même a contribué à la reconstitution de son itinéraire. Pierre Péan, dans un livre aussi, a contribué à la reconstitution de sa vie cachée dans la période qui va précéder ses activités de résistance. C'est à la fois de l'intérêt et pas l'intérêt. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir que, par l'intermédiaire d'un pasteur américain, le pasteur Brooke, qui est à la fois un agent des services secrets américains et, curieusement, en rapport étroit avec les services de renseignement soviétiques, il sera mis en relation avec un véritable résistant, lui, qui est Henri Frenay. Ce contact avec Henri Frenay se passe pendant l'été, en juillet 1941. Ce contact joue un rôle excessivement important pour l'avenir parce que Henri Frenay est vraiment l'organisateur ou le concepteur de ce que sera la résistance intérieure. Et à l'été 1941, il a jeté les bases de ce que sera ultérieurement à la fois le mouvement combat et la future armée secrète. Et il a tissé toutes sortes de relations, grâce à ses anciennes relations militaires, etc., etc. Bref, s'il y a un homme qui est au courant, à l'époque, des embryons, puisque la résistance intérieure n'est qu'embryonnaire à l'époque, qui est au courant des embryons de résistance, c'est Henri Frenay. Et Henri Frenay raconte, sans donner nécessairement de nom, bien entendu, mais il raconte, ou il explique à cet ancien préfet, Jean Moulin, quelles sont à la fois ses intentions et sa stratégie. Et Jean Moulin se présente à lui comme étant déjà en relation avec Londres, ce qui n'est pas le cas. Il n'a, à l'époque, aucune relation avec Londres. Et une relation de confiance établie, ce qui lui permet de recueillir toutes les informations qui sont disponibles à l'époque. Fort de ces informations, il va passer à Londres au mois d'octobre 1941 par l'intermédiaire de l'Espagne et du Portugal. Lorsqu'il arrive à Londres, il se présente au quartier général du général de Gaulle, qui est ravi d'accueillir le premier préfet qui vient se mettre à sa disposition. C'est important parce que, comme je le disais tout à l'heure, de Gaulle se sent très seul à l'époque. Or, voilà enfin le premier représentant de l'ancienne administration française qui vient se mettre à sa disposition. De surcroît, ce personnage lui apporte les premiers renseignements disponibles sur la résistance intérieure. Et Jean Moulin va se présenter au général de Gaulle comme le représentant de la résistance intérieure, ce qu'il n'est nullement. Il est simplement, mais ça il ne le dit pas, il a été pendant quelques heures l'interlocuteur intelligent et privilégié d'Henri Frenay, qui l'a informé de la situation de la résistance intérieure.
C'est un peu léger de la part de Frenay de parler ainsi devant un inconnu des secrets de la résistance.
Alors, il n'a pas donné les secrets, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné de nom. Il a préservé les noms, mais il a parlé. Mais à cette époque, et par la suite aussi, les résistants, ou ceux qui se considéraient comme tels, le terme de résistant d'ailleurs n'est pas encore utilisé, parlaient facilement. Malheureusement pour eux, ce qui explique que les déboires qui ont été ceux de la résistance, le nombre considérable d'arrestations chez les résistants, de la part de services de police allemand qui finalement était relativement léger. Mais l'imprudence au début, et pas simplement au début, de la part des résistants a été quelque chose d'extrêmement fréquent. Bref, à partir de cette mise aux ordres du général de Gaulle, Jean Moulin comprend l'importance qui est celle du général de Gaulle. Il comprend que le général de Gaulle dispose notamment de fonds, qu'il va disposer de moyens, etc. Il se met à sa disposition pour revenir en France et pour être l'organisateur de la résistance intérieure sous son autorité. Puisque jusque-là, la résistance intérieure se développe seule, hors de l'autorité du général de Gaulle. Comment faire? Eh bien, Jean Moulin lui dit, moi, je serai votre représentant et je mettrai la résistance intérieure à vos ordres. Alors, Jean Moulin est parachuté en France le 1er janvier 1942 et il va se mettre de nouveau en relation avec Henri Frenay et avec d'autres dirigeants de la résistance. Pour établir l'autorité du général de Gaulle et sa propre autorité à leurs yeux, il dispose de deux armes qui sont capitales. Il dispose à la fois du moyen de communication grâce à des postes émetteurs-récepteurs, et il est le seul à en disposer. Et il dispose de fonds et de la répartition des fonds. C'est lui, donc, qui peut alimenter les finances des mouvements de résistance intérieure qui sont toujours très faibles. Ils ont besoin d'argent. Et il y a des hommes dans la nature, il faut faire vivre une organisation clandestine, etc. Tout ça demande énormément d'argent. Il est le dispensateur des fonds, ce qui lui donne une autorité considérable. Par ailleurs, c'est lui qui transmet à Londres et au général de Gaulle les informations sur la résistance intérieure. Donc, il a une position stratégique absolument capitale. Il est le centre des relations entre le général de Gaulle et la résistance intérieure. Et il a compris quelles sont les intentions...
Parce qu'il arrive tout de même à entrer en contact avec les réseaux.
Oui.
Grâce à Freinet.
Grâce à Freinet.
Et Freinet accepte le rôle nouveau qui est dévolu à...
Oui, parce que Jean Moulin se présente avec un accréditif du général de Gaulle.
Bien, oui.
Il l'accepte avec réticence. Mais il l'accepte. Il est contraint d'accepter. Il accepte avec réticence parce que il craint, Henri Freinet craint, de passer sous l'autorité de gens qui n'ont pas été les créateurs de la résistance intérieure. Il ne perçoit pas immédiatement quelles seront toutes les conséquences. Mais il a une inquiétude. Néanmoins, il est contraint d'accepter cette autorité pour la raison que j'ai indiquée. D'abord parce que le général de Gaulle, aux yeux des alliés, est le représentant, évidemment, de la résistance dans son ensemble. Et parce que, par l'intermédiaire de Jean Moulin, le général de Gaulle est le dispensateur des fonds qui vont permettre, des fonds et des moyens, des armes ultérieurement, etc., des postes émetteurs, enfin de tous les liens et de toute la logistique qui va permettre à la résistance intérieure de se développer. Et Jean Moulin, ayant compris les objectifs du général de Gaulle, qui est d'obtenir le soutien, la reconnaissance de la résistance intérieure, mais par ailleurs d'obtenir aussi le soutien des anciens hommes politiques, des politiciens de la Troisième République, là, il va utiliser ses propres réseaux, ses propres relations, qui sont nombreuses, pour renouer les liens avec les anciens partis de la Troisième République. Et c'est ainsi qu'il va constituer le Conseil national de la Résistance. Le Conseil national de la Résistance n'est pas du tout comme on l'imagine une sorte d'état-major qui va diriger la résistance. D'abord, la résistance se dirige toute seule. Elle est le fait d'innombrables initiatives privées de gens qui n'ont pas de rapport entre eux, sinon au niveau des têtes de mouvement.
Et encore.
Et encore. Mais, en revanche, ce Conseil national de la résistance sera une façade très importante qui va permettre au général de Gaulle d'asseoir sa légitimité. Et notamment d'asseoir sa légitimité dans ce qui l'oppose au général Giraud dans l'année 1943 et à la méfiance des Américains et des Anglais. À partir du moment où le CNR a été constitué, où le CNR qui est composé à la fois de représentants de la résistance intérieure et de représentants des anciens partis. À partir du moment où le CNR a reconnu le général de Gaulle comme étant le chef de l'ensemble de la résistance française, à ce moment-là, il a joué son rôle. Ce qui fait qu'au moment de l'arrestation de Caluire, en juin 1943, Jean Moulin et le CNR ont joué leur rôle et ils ne joueront plus aucun rôle. Au moment de la libération de Paris, lorsque le CNR, qui est présidé par Georges Bidault, veut en quelque sorte exiger du général de Gaulle d'être reconnu comme l'autorité de la résistance intérieure, le général de Gaulle refuse et les écarte. Et le CNR ne jouera plus aucun rôle. Ce qui fait que CNR, Jean Moulin, ont joué un rôle politique important dans la stratégie du général de Gaulle. Une fois ce rôle joué, ils n'ont plus leur rôle CNR Jean Moulin est secondaire. Le CNR va continuer à jouer un rôle. Il va être de plus en plus entre les mains du Parti communiste, qui a une vieille habileté politicienne et qui en fera l'un de ses instruments. Mais c'est un instrument que le général de Gaulle aura soin d'éliminer dès la libération, dès qu'il pourra imposer son propre pouvoir en France. Voilà donc quelle est la situation réelle, le rôle réel de Jean Moulin et du CNR, comme je le disais au début. À l'époque, c'est un rôle qui était, pour la résistance intérieure, tout à fait secondaire, et l'arrestation de Jean Moulin à l'époque n'a pas suscité une crise grave à l'intérieur de la résistance et n'a absolument rien changé au développement de la résistance française qui de toute façon se développait indépendamment de lui puisqu'il n'en était en aucune façon le créateur ou l'animateur.
Alors merci Dominique Vénère. Venons-en maintenant à l'arrestation de Jean Moulin puisque nous sommes au cœur de cette question. Je me tourne vers Jean-Claude Vallat. Alors Jean-Claude Vallat, vous avez publié de très nombreux ouvrages sur la question contemporaine et sur la Seconde Guerre mondiale. Vous venez de publier un ouvrage totalement différent mais tout de même qui se trouve dans une certaine filiation. Un ouvrage très intéressant sur la phalange espagnole, Ledesma Ramos et la phalange espagnole et la phalange espagnole, au cahier libre d'histoire. Nous donnerons tout à l'heure l'adresse des cahiers libres d'histoire. Et vous êtes un très bon connaisseur de cette période. Et vous êtes lyonnais d'origine, vous avez travaillé sur la résistance et sur la collaboration dans la région lyonnaise. Alors je me tourne vers vous et posons directement la question. L'arrestation de Jean Moulin est-elle, d'après vous, le fait de malencontreux hasards et de recoupements au sein des réseaux, ou bien est-elle le résultat d'une trahison ?
Il est très difficile de répondre à cette question, parce que d'abord, les imprudences, les hasards et les malveillances peuvent s'additionner. Un facteur n'exclut pas l'autre. Il y a eu beaucoup d'imprudence au sein de la résistance. Dominique Vénère y faisait allusion tout à l'heure, et des imprudences souvent au plus haut niveau. Le fait que Jean Moulin lui-même soit arrivé à la réunion de Caluire le 21 juin 1943, donc à cette réunion au cours de laquelle il sera arrêté, avec plus d'une heure de retard, enfreignant ainsi toutes les règles de sécurité, est une imprudence considérable. Et comme par hasard, je le dis entre parenthèses, il arrive avec plus d'une heure de retard, avec les Allemands derrière lui quasiment, qui arrivent dans la minute ou les minutes qui suivent, ce qui fait que certains, je pense notamment à l'historien Jacques Benac, avanceront l'hypothèse selon laquelle Jean Moulin aurait été suivi par les Allemands à son insu. Autre imprudence de Jean Moulin, pour donner un exemple encore, c'est en avril 1943. Jean Moulin rencontre dans un appartement de l'avenue des Ternes à Paris Pierre Brossolette et le colonel Passy. Passy, qui est le chef du BCRA, est arrivé en France en mission avec Brossolette. Et il rencontre donc Jean Moulin et Brossolette n'est pas du tout d'accord avec la politique menée par Jean Moulin au sein de la résistance intérieure. Et la discussion s'engage et Jean Moulin se met à hurler. Nous avons le témoignage de Passy qui le raconte dans ses mémoires. Passy parle de cris et de vociférations de la part de Jean Moulin pendant un quart d'heure dans un immeuble où logeaient des Allemands. Là, on frôle l'inconscience totale et ce n'est pas un résistant de base, un résistant lambda qui commet cette imprudence, c'est l'envoyé spécial, le délégué permanent du général de Gaulle. Donc, les imprudences ont été commises et au plus haut niveau. Mais, bien entendu, la trahison est l'hypothèse la plus couramment retenue, la plus couramment admise, peut-être parce qu'elle plaît beaucoup aux médias et qu'elle flatte le goût malsain du public. Elle n'est pas prouvée aujourd'hui. Je crois qu'aucun historien ne peut affirmer aujourd'hui qu'il y a eu trahison dans l'affaire de Caluire. On accuse toujours René Hardy, qui a été quand même, qui a gagné ces deux procès, après la libération, alors que le climat était tendu, que les communistes voulaient à tout prix qu'il soit condamné. J'ai ici un article que j'ai retrouvé. Le Secours populaire, courroie de transmission du Parti communiste, avait tenu à Salvagram, je crois, ou Salpleyel, pendant le second procès hardi, un contre-procès avec des gens qui sont venus apporter un témoignage. Ce ne sont que des communistes ou des compagnons de route du Parti communiste qui sont... Je vais vous dire ça exactement. Il y avait là Pierre Hervé, Pierre Meunier, Robert Chambéron, Madame Lucie Aubrac, Maître Joël Norman. Et donc les invités, c'était Salvagram, ont écouté donc les dépositions de ces personnes. Et on leur avait remis un papier qu'ils devaient signer. « Je sous-signais, après avoir pris connaissance des preuves irréfutables et des déclarations de messieurs, etc., et de madame Lucie Aubrac, en mon âme et conscience, déclare René Hardy coupable de trahison, réclame son châtiment exemplaire. » Donc, contre-procès pendant le procès. Donc, il y a eu cette affaire Hardy, une affaire compliquée, par ailleurs, je ne veux pas insister dessus, mais... On a parlé là de trahison, et la trahison n'est pas prouvée. Ce qui a relancé la thèse de la trahison, ce sont les déclarations de Klaus Barbie.
Alors précisément...
Parce que Klaus Barbie, qui est arrêté en Bolivie, qui est ramené en France, qui n'est pas jugé d'ailleurs pour son action contre la résistance, mais qui est jugé pour son action anti-juive, ou sa présumée action anti-juive, car il n'était pas concrètement chargé de celle-ci. Il était en charge de la lutte contre la résistance. Mais la jurisprudence a voulu que on ne puisse pas poursuivre un officier allemand ou même un officier SS pour avoir mené une action contre la résistance, parce que c'était pas un crime contre l'humanité, c'était simplement un crime de guerre. Mais malgré tout, il y a une instruction de commencer, et au cours de laquelle Klaus Barbie a déclaré que il y avait au sein de l'état-major de l'armée secrète un Wehrmann, c'est-à-dire un homme de confiance de l'armée allemande, donc un traître. Cela, nous le savions déjà par le rapport Kaltenbrunner du 27 mai 43, Kaltenbrunner étant le patron de la Gestapo à Berlin, qui faisait mention de ce Wehrmann, mais ce Wehrmann n'était pas mentionné. Et pour la première fois, Klaus Barbie déclare que ce Wehrmann, cet homme de confiance, ce traître, c'est Raymond Aubrac. Il le déclare devant le juge d'instruction, devant le juge Ami à Lyon, au cours donc de cette instruction sur l'affaire de Caluire. Et quelques mois plus tard, Jacques Vergès, avocat de Barbie, dépose devant le même juge d'instruction un mémoire de plusieurs dizaines de pages confirmant cette accusation et la développant. C'est ce qu'on a appelé le testament de Barbie. Barbie est toujours vivant.
À l'époque.
C'est donc un testament, ce n'est pas un testament posthume, mais Barbie est encore vivant et donc cautionne au moins l'opération, s'il n'en est pas l'auteur. Et un historien lyonnais, Gérard Chauvy, sera très lourdement condamné pour avoir publié in extenso ce mémoire ou ce prétendu testament de Barbie. Le tribunal ayant estimé d'ailleurs que ce n'était pas la publication du document en question qui posait problème, car il y avait beaucoup de rumeurs sur lui, donc après tout il valait mieux le mettre sur la table, mais le tribunal reprochait à Chauvy de n'avoir pas remis ce document dans son contexte, de ne pas l'avoir suffisamment critiqué, alors que Chauvy le critiquait, mais évidemment Chauvy, à la suite de Vergès, s'était attaqué un gros morceau, puisque Raymond Aubrac est un personnage central, et qui est, pour le relier à ce qu'on disait tout à l'heure, un compagnon de route du Parti communiste. On ne sait pas trop quelles étaient ses convictions à l'époque. Sa femme, Lucie Aubrac, avait été militante des jeunesses communistes avant-guerre, et lui-même sera, après la guerre, un membre important, un rouage important de l'Internationale communiste. Et donc, Aubrac s'est retrouvé sur la sellette. Mais la question qu'il faut se poser quand même, c'est est-ce qu'on peut croire Barbie ? Ouais. Est-ce qu'on est obligé de croire sur parole un ancien chef de la Gestapo ? Parce que Barbie a déjà accusé René Hardy. En 1948, Hardy était en Allemagne. Il travaillait pour le compte des services secrets américains. La France avait demandé son extradition et les Américains ont refusé. Et on jugeait donc René Hardy. Et dans le cadre de l'instruction de René Hardy, on a envoyé un commissaire de police, le commissaire Bibb, en Allemagne pour interroger Barbie. Il y a eu 3 interrogatoires. Et les procès-verbaux que j'ai consultés sont très intéressants. Car on voit que d'une version à l'autre, on arrive à faire dire à Barbie ce que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'à l'époque, on souhaite qu'il accuse René Hardy, qu'on l'aurait jugé, et que les communistes veulent à tout prix voir condamné. Donc Barbie modifie, parce que c'est pas très cohérent, donc le commissaire Bibb revient à la charge, et puis finalement on arrive à une version à peu près cohérente, qui sera donc présentée dans la procédure. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que, comme par hasard, une fois cette déposition obtenue, la France cesse de demander l'extradition de Barbie aux Américains, le Parti communiste ayant préféré se servir de Barbie plutôt que de le juger. Alors, méfions-nous des accusations et des propos de Barbie. Barbie défendait sa cause, défendait sa peau peut-être, enfin pas sa peau parce qu'il ne pouvait pas être condamné à mort devant la justice française, mais finalement a réglé peut-être des comptes et il a joué son jeu, il a pris sa revanche éventuellement, mais nous n'avons pas à le croire sur parole.
Alors Jean-Claude Vallat, comment en arrivons-nous à la mise en cause de Guylaine Bénouville ?
Alors, la mise en cause de Guylaine Bénouville, elle est en grande partie due à Pierre Péan, et également à un personnage que l'on a évoqué tout à l'heure, à Daniel Cordier. Alors Pierre Péan est un journaliste de gauche, je dirais, bon, qui a été au Canard enchaîné. Daniel Cordier, comme l'a dit le colonel Hogard, est un ancien de l'Action française, qui a donc effectivement renié ses idées et qui a des comptes à régler. Mais Cordier a essayé de... est toujours plus... dans ses écrits, est toujours plus prudent. Alors que Péan sait prendre plus de risques, et Péan est sûrement celui qui a joué le rôle le plus important. Je signale au passage d'ailleurs que Péan et Cordier ont été les conseillers de la production pour le téléfilm qui est passé sur TF1 au mois de janvier.
Ce qui explique.
Tout à fait.
Ce qui explique, voilà.
Avec Georges et Semprin.
Voilà.
Il faut que l'équipe soit complète.
C'est ça, il faut que l'équipe soit complète. Alors, en fait, Péan a trouvé en Bénouville un client idéal, si je puis dire. Puisque, pour eux, la résistance est essentiellement un phénomène de gauche. La droite, l'extrême droite, la droite nationaliste, a collaboré. Elle a été pétiniste, ou collaborait, mais elle n'a pas été dans la résistance. Et s'il y a vraiment eu des gens de cette famille-là dans la résistance, c'était forcément de mauvais résistants.
Des traîtres.
Ou des traîtres. Alors, concernant Pierre de Bénouville, évidemment, Péan rappelle un certain nombre de choses. Il rappelle qu'il a été camelot du roi, qu'il a été à la cagoule. Je ne sais pas s'il rappelle qu'il a fait un petit séjour en Espagne du bon côté pendant la guerre civile. Il rappelle ou révèle que Pierre de Bénouville, en septembre 1940, a pris la rédaction en chef d'un hebdomadaire niçois qui s'appelait l'Alerte, qui était un hebdomadaire pétiniste, dans lequel il a lui-même écrit des articles très élogieux à l'égard du maréchal. Mais Pierre Péan ne comprend pas ou ne veut pas comprendre qu'en septembre ou octobre 1940, tout le monde en France est pétiniste, y compris Henri Freinet. Car ce rejet de la Troisième République, dont parlait très bien Dominique Vénère tout à l'heure, eh bien, il s'accompagnait, surtout au début, d'une sympathie évidente et d'une reconnaissance profonde à l'égard du maréchal Pétain, qui était venu réparer les conneries, si je peux dire, de la Troisième République. Donc, Bénouville a été rédacteur en chef de cette publication, ce qui évidemment aux yeux de Péan n'est guère acceptable. Bien sûr, Bénouville part en Algérie avec l'intention de rejoindre la France libre. Il part en février 1941. Il est arrêté à son arrivée à Alger parce qu'il a voyagé clandestinement sur le paquebot. Il est rapatrié quelques semaines plus tard en métropole, interné à la prison militaire maritime de Toulon, où il fait d'ailleurs la connaissance de René Hardy, qui est déjà en prison pour les mêmes raisons. Et Pierre de Bénouville est libéré de prison en août 41. Et là, Pierre de Bénouville ne rejoint pas ce qu'on pourrait appeler la résistance gaulliste, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est qu'il n'y a pas vraiment de résistance gaulliste. Il rejoint un réseau qui est le réseau CARTE, qui est un réseau qui travaille pour le compte de l'intelligence service, avec un personnage qui est André Girard, on a compris après coup que c'était un personnage qui n'était pas tout à fait, enfin qui n'était pas très sérieux, mais qui a fait beaucoup d'illusions et qui en tout cas avait réellement le contact avec les Anglais. Et Bénouville a travaillé donc avec ce personnage, a noué des contacts en Suisse avec les services américains et ne voulait pas rejoindre les mouvements de résistance parce qu'il se méfiait de leur politisation et de leur bavardage. Il avait un ami qui le poussait pourtant beaucoup à rejoindre le mouvement combat, c'était Jacques Renouvin. Jacques Renouvin, ancien camelot du roi, qu'il connaissait bien, l'avait relancé à plusieurs reprises en lui disant « Mais viens travailler avec nous au sein du mouvement combat, tu verras, c'est bien, tu peux avoir confiance. » Et Bénouville ne voulait pas, Bénouville souhaitant privilégier le travail militaire en quelque sorte et le travail d'information et de renseignement. Et finalement, cela va changer lorsque la résistance, les trois mouvements de zone sud, c'est-à-dire combat, libération et franc-tireur, vont s'unifier dans les mouvements unis de résistance. Et en mars 43, Pierre de Bénouville accepte de rallier l'état-major, la direction des mouvements unis de résistance. Et Henri Frenay va le prendre en amitié et va lui confier tout de suite les relations extérieures des mouvements unis de résistance. D'ailleurs, en fait, c'est les relations avec la Suisse et les services secrets américains en Suisse. Et Henri Frenay, lorsqu'il va partir pour Londres puis Alger à la mi-juin 43, donc peu avant Caluire, va confier à Pierre de Bénouville la direction des affaires militaires des mouvements unis de résistance. Ce qui fait que Pierre de Bénouville devient, juste avant Caluire, le patron militaire de la résistance, donc un homme très important. Il a 28 ans, et ce qui explique qu'en juin 44, donc un an plus tard, il sera fait général de brigade, à 29 ans, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Ils sont deux, il y a Chaban et lui, nommé général.
Ils étaient quatre, en fait. Ils étaient quatre.
Ouais. Mais deux à titre...
Ils étaient quatre, en réalité, et Chaban et lui sont les plus connus. Mais il y en a deux autres qui sont moins connus, qui sont Chevance-Bertin et...
Mais Chevance-Bertin l'était déjà, non?
Non, il était officier d'active, mais il n'était pas général, loin de là. Il était lieutenant capitaine, hein, quelque chose comme ça. Et puis, il y a Jussieu Boncaral pour faire le quatrième, voilà. Ils ont été quatre.
Non, mais vous avez bien fait de...
c'est l'histoire.
De rectifier. Alors, ce qui, évidemment, ce que Péan n'admet pas dans cet itinéraire, c'est que ce soit un personnage compliqué, comme l'était l'époque. Péan insiste beaucoup dans son livre « Vie et mort de Jean Moulin », dans lequel il évoque longuement la carrière de Pierre de Bénouville, insiste sur le fait que Pierre de Bénouville n'a conservé le contact avec ses amis politiques, y compris avec ceux qui avaient fait des choix différents. Et, bien entendu, pour Péan, c'est suspect. Or, que voit-on? On voit Bénouville, je peux ramener en quelque sorte dans le droit chemin un certain nombre de ses camarades, ou les faire travailler pour la résistance. Il y a là-dessus des témoignages très précis. Il va organiser un certain nombre de réseaux, et tout ceci va se faire de façon parfaitement... Enfin, aujourd'hui, on peut affirmer très clairement qu'il n'y a pas eu double jeu. Bon, simplement, l'époque était compliquée, il fallait, la résistance avait besoin d'informations venant de certains milieux, tout était compliqué, les choix des individus étaient très complexes.
Oui, bon, l'interprétation de, si vous me permettez, l'interprétation de Péan est typique de celle des gens d'aujourd'hui qui n'ont aucune idée de ce que pouvait être ce genre de situation, qui n'y comprennent rien, qui jugent ça sur des papiers, sur des documents, sur des archives qui mentent ou qui sont à côté, et qui ne comprennent rien à la dimension humaine, à la réalité de ce que pouvait être ce jeu des hommes et de l'époque. Voilà.
Oui, alors, qui croyaient peut-être que l'on pouvait adhérer à la résistance en allant à la permanence du
pas
coin.
Pas de cacophonie, ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Je voudrais maintenant me tourner vers Jacques Hogard. Vous êtes donc le neveu de Pierre de Bénouville. Et j'aimerais vous poser deux questions. Comment le nom de votre oncle a-t-il été introduit dans cette polémique, très précisément? Et deuxièmement, j'aimerais que vous reveniez sur son portrait. Jean-Claude Vallat nous a fait un très beau portrait de lui, mais j'aimerais que vous nous rajoutiez une dimension personnelle et familiale et que vous nous complétiez ce portrait de général de Bénouville.
J'admire la parfaite rétrospective qu'a fait Jean-Claude Vallat à l'instant, parce qu'elle est parfaite. Pas grand-chose à rajouter. Si ce n'est quand même pour préciser un point, pour éclaircir ce que vient de dire Dominique Venner et ce que disait Jean-Claude Vallat à l'instant, effectivement, ces contacts, on peut donner des noms. Le sénateur de Tinguy-du-Poët, qui occupait des hautes fonctions à Vichy, qui était le père d'un des camarades d'Action française de mon oncle, qui était lui-même dans la résistance jusqu'au cou, et qui, à Vichy, a accueilli mon oncle, pour le mettre en contact avec l'ancien sénateur Lemery, qui était à ce moment-là ministre des colonies, si je ne dis pas de bêtises, et qui a beaucoup aidé mon oncle et la résistance. Il faut quand même rappeler ces choses-là. Donc ministre en exercice du maréchal. Bon, on peut aussi citer le cas du comte de Castellane, qui était le père de son vieux complice, Jean de Castellane, qui partage le même tombeau au cimetière de Passy aujourd'hui, avec Michel de Camaret. Trois des quatre mousquetaires d'avant-guerre, si je puis dire, et qui, lui, était officiellement engagé à Vichy. Donc, il faut quand même... C'est important de dire tout ça, parce que c'est vraiment l'histoire. Les gens ont besoin de le savoir. Alors, pour en revenir à vos deux questions, la première question était de savoir comment son nom était apparu dans cette affaire. Je crois que... la raison est simple. On a parlé de Daniel Cordier, on a parlé de Pierre Péan. Daniel Cordier... dans les années 85-86, si ma mémoire est bonne, a été indigné, en fait, par un certain nombre de choses sur Jean Moulin venant de Fresnay. Bon. Donc il a mis dans son axe de tir deux personnes qui étaient complémentaires, qui étaient Henri Fresnay et Pierre de Bénouville, qui étaient des amis donc de cette époque, et qui incarnaient la fidélité à un certain nombre de choses que lui-même avait reniées. Première chose, donc vraiment je pense un compte personnel à régler, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Claude Vallat quand il dit que Cordier est plus soft, on va dire, pour parler à la mode anglo-saxonne d'aujourd'hui. Je crois que il l'est aujourd'hui, parce qu'il voit les limites de ses accusations et de sa perfidie. Je suis un peu fort, mais je parle avec mes tripes, comme je disais au départ. Il en voit les limites parce qu'elles n'ont pas de fondement historique. Mais je rappelle quand même que dans sa somme énorme sur Jean Moulin, qui, je ne sais plus combien de volumes, 12 ou 15 volumes, je ne sais plus, dans le premier volume...
Qui n'ont pas tous été publiés.
Qui n'ont pas tous été publiés. Merci. Dans le premier volume, il est extrêmement...
Merci pour les lecteurs.
Extrêmement dur, extrêmement précis dans ses attaques contre mon oncle. Alors après, il va évoluer jusqu'à dire aujourd'hui, non, je suis désolé, Bénouville n'était pas coupable, peut-être coupable, mais pas responsable, pour reprendre une autre expression connue. Bon.
Vous avez raison, il a mis
de l'eau dans son vin, oui. Au fur et à mesure, parce qu'il voit bien les limites de sa position qui est intenable. Par ailleurs, Daniel Cordier a des intentions aujourd'hui, je crois savoir qu'il veut rejoindre le fameux club des 22, dont il n'aurait jamais fait partie, mon oncle étant vivant, qui est un club de compagnie dans la Libération, qui est un peu un club d'influence, et qui visait à réunir de manière un peu discrète les différentes tendances de la résistance pour en sauver l'image en permanence. Bon. Donc s'il est sur le point de rejoindre aujourd'hui ce club des 22, je pense qu'il y a des contreparties à donner, et que ces contreparties, c'est de mettre de l'eau dans son vin. Donc il faut le dire, parce que je crois que c'est la vérité. Donc Daniel Cordier, dont, encore une fois, je tiens à souligner les liens très particuliers, d'amitié très particulière, je me répète, avec Jean Moulin, auquel il doit son titre de compagnon de la Libération. Donc on peut dire les choses comme on veut, mais je crois qu'il faut être très clair sur ce sujet, parce que ceci explique cela. Il a même dit, je crois, quelque part, parce que c'était lui, parce que c'était moi, donc on voit tout de suite la nature de ces relations, contrairement à ce que l'histoire officielle veut aujourd'hui nous faire passer. Deuxième personnage derrière, donc Péan, qui a repris cette théorie, cette thèse, initiée par Cordier, pour en faire le fameux livre « Vie et mort de Jean Moulin » dont on parlait tout à l'heure, qui est un gros pavé, et qui effectivement, au milieu d'un certain nombre de choses parfois intéressantes d'ailleurs, mélange petite vérité avec gros mensonges, etc., etc. Donc voilà pour répondre à la première question. La deuxième question, essayer de compléter le portrait, oui, de cet homme.
D'où vient-il? Sa formation politique, sa formation intellectuelle. Alors,
mes grands-parents étaient d'une famille catholique, royaliste.
De quelle région de France?
De Normandie. Très attaché à un certain nombre de choses qu'il a trouvées dans son berceau en naissant. Il avait une mère, donc ma grand-mère, qui était une personne pour laquelle j'ai une grande vénération. Elle est morte quand j'avais 15 ans, mais je pense souvent à elle avec émotion, qui lui a apporté, je crois, les valeurs de l'existence les plus essentielles, que sont l'honneur, la fidélité à l'amitié, à la parole donnée, le dévouement intégral à la patrie, pouvant aller jusqu'au don de soi, etc. Donc ça, je crois qu'il a vraiment trouvé tout ça dans son berceau tout petit, et il l'a vécu toute sa vie. Quand on parle de ces affaires de trahison, je ne peux pas, comme mes frères et sœurs, ne pas avoir le poil qui se dresse, parce que j'ai en particulier avec une de mes sœurs passé les trois derniers jours de son existence avec lui. Nous l'avons un petit peu accompagné, il savait qu'il était parvenu presque au bout du voyage. Et je peux vous dire, pour l'avoir vu et avoir vu son regard et son front contre le mien, me dire, tu sais, je suis prêt, je sais ce qui m'attend et je suis prêt, avec un regard lumineux et un sourire lumineux tout autant, c'est pas le regard, c'est pas l'attitude d'un homme qui a de lourds secrets à cacher. Ça, c'est la réalité. Alors, c'est un personnage qui a évidemment des défauts, comme tout homme, mais qui avait, à mon avis, des qualités essentielles, qui étaient l'engagement intellectuel, moral, physique, pour les idées, pour l'idéal auquel il croyait, même s'il a pu donner ici ou là de grands exemples d'ouverture que certains peuvent contester. Mais en tout cas, c'était un homme loyal, généreux, courageux et engagé.
Les attaques ont commencé de son vivant. Comment y a-t-il répondu ?
Il y a répondu dans les années où Cordier a commencé ses actions de désinformation et de diffamation. Il y a répondu à l'époque très vigoureusement par une série d'articles parus de mémoire en 87 dans le Figaro. Je me souviens de grandes pages dans le Figaro où là il a tapé très fort sur Cordier en disant il était correct et poli, donc il ne voulait pas aborder certaines choses de front, mais il a fait comprendre à Cordier très clairement qu'il était véritablement, passez-moi l'expression, un deuxième classe de la résistance, promu compagnon de la Libération pour des raisons toutes politiques et plus proche de l'alcôve que de la réalité du terrain et du combat, et qu'il valait mieux qu'il se taise. Bon. À l'époque, Cordier, d'ailleurs, a nettement baissé le ton. Mais je pense que le capital de ressentiment de cet homme vis-à-vis de ce qu'incarnait Pierre de Bénouville est tel qu'aujourd'hui, il pavane. C'est facile.
Il est le seul. Et des hommes comme De Gaulle ou comme les divers chefs de la résistance sont-ils intervenus dans cette controverse?
Alors aujourd'hui, j'observe récemment qu'il y a eu... J'ai été un petit peu déçu.
Jacques Baumel est intervenu,
mais somme toute, assez modérément.
Mais à l'époque.
À l'époque, bon, Jacques Baumel est un ancien du mouvement combat, plus jeune, un petit peu nettement plus jeune que ses grands frères de l'époque qui avaient 5 ou 6 ou 7 ans de plus que lui.
Mais qui a connu quand même.
Mais qui a connu toute l'époque et qui a été un témoin des fêtes, on peut dire.
C'est un des derniers grands témoins.
Mon oncle avait une position, il l'exprime d'ailleurs dans son livre posthume publié par Laura Dern, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, et en particulier sur des notes de bas de page, mais ça c'est une autre histoire. Mais il s'exprime un peu là-dessus. Je veux pas entamer de polémique du tout avec Jacques Baumel, qui a eu le courage, un des seuls, de prendre sa défense il y a quelques semaines. Ce que j'observe quand même, c'est que le milieu résistant, et notamment les compagnons de la Libération, l'Ordre de la Libération, est resté extrêmement discret. Il y a un communiqué paru en janvier dans Le Monde, qui est un communiqué où finalement on a l'impression que c'est la mémoire de Jean Moulin qui a été attaquée dans ce téléfilm, alors que je pense qu'il s'agit plutôt de celle de Pierre de Bénouville. Le titre est élogieux, Jean Moulin, deux points, la mémoire violée. Alors qu'on en conclut rapidement que c'est Jean Moulin qui est en cause. Alors que c'est pas lui qui est en cause, bien entendu. Il y a quelques phrases qui sont tout à fait intéressantes. Je regrette que pas une fois le nom de Pierre de Bénouville soit cité dans ce communiqué. Pas une fois. Donc je l'ai écrit au général de Boissieu, qui ne m'a pas répondu par écrit, qui m'a fait répondre par son secrétaire général un coup de fil me disant que ce communiqué était très bon et qu'on n'y reviendrait pas. J'ai reçu simplement une lettre de Pierre Messmer, auquel je l'avais envoyé en copie. Pierre Messmer est un ancien officier de Légion, ce qui crée avec moi quelques liens, puisque je suis dans le même cas. Et c'est à ce titre que je lui ai envoyé une copie de ma lettre. Et il m'a répondu une lettre amicale pour me dire qu'effectivement, à titre personnel, il était navré de tout ça, et qu'il aurait aimé, effectivement, que le nom de mon oncle soit prononcé dans ce communiqué.
Bon, nous allons procéder à une dernière pause musicale et nous revenons sur ce point important. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, de très nombreuses questions d'auditeurs, Victoria, notamment une concernant la thèse de Maître Benfredge.
Oui, alors Jean Moulin a-t-il été un agent soviétique? A-t-il espionné pour le compte de l'URSS? Que pensez-vous du livre L'affaire Jean Moulin, la contre-enquête de Maître Benfredge?
Jacques Hogard.
Je connais Maître Benfredge, que j'ai évidemment rencontré. Et que j'ai eu surtout au téléphone au moment où le téléfilm est sorti pour lui demander conseil, lui demander son avis. C'est la raison pour laquelle nous avons, la famille, obtenu une mise en garde avant et à l'issue du téléfilm, du deuxième épisode, quand nous avions vu l'ampleur et la catastrophe du premier. Donc Maître Benfredge, au téléphone, à un de mes cousins et moi, nous a dit, vous savez, le fameux secret que Bénouville a emporté dans sa tombe, je vais vous le donner. Alors j'étais un peu pantois avec mon cousin à l'autre bout du fil, Maître Benfredge qui je crois est venu sur les ondes de Radio Courtoisie il n'y a pas très longtemps, nous dit « En réalité, j'ai étudié la question de manière très approfondie. Je prétends que le seul à pouvoir trahir la réunion de Caluire, eh bien, contre toute attente et au risque de détruire un mythe de l'après-guerre, eh bien, c'est Jean Moulin lui-même. » Donc pensez bien que lorsque j'ai entendu ça au téléphone, avec le haut-parleur du téléphone dans le cabinet d'avocat où se trouve mon cousin, j'étais un petit peu étonné. Et puis je suis revenu à ce livre que j'avais acheté il y a quelques années et que j'ai lu effectivement. Et je me dis, si je n'ai pas été jusqu'au bout totalement de mes accusations dans ce livre, c'est parce que votre oncle n'y tenait pas pour l'unité de la résistance, ne pas porter atteinte au mythe de Jean Moulin. Ça, je le crois volontiers, venant d'un homme comme mon oncle, qui n'était pas dupe des uns et des autres, n'avait pas beaucoup d'illusions, et il l'a montré à la fin de sa vie en refusant tout honneur officiel, toute cérémonie aux Invalides et tout enterrement avec compagnie en armes, auquel il aurait eu droit, parce que il avait pris beaucoup de distance avec tout ça, et qu'il savait juger les gens tels qu'ils étaient. Mais il était très attaché à un certain nombre d'images, en particulier parce qu'elle s'identifiait à une part de sa vie pendant laquelle il avait tout donné et qu'il avait du mal à la voir détruire.
Oui, alors donc, la thèse de Benfredge est étayée comment ?
La thèse de Benfredge, dans le détail, Benfredge dit qu'en fait, en substance, que Jean Moulin est un agent soviétique. C'est vrai que depuis 1933 ou 1934, Moulin était surnommé Moulin Rouge. Mauvais jeu de mots. D'autres diraient Moulin avant, aujourd'hui, mais c'est encore autre chose. Et c'est vrai qu'à l'époque, Moulin avait donné, on en a parlé, un certain nombre de gages au milieu communiste. Donc la thèse d'Henri Freinet, reprise par Benfredge, est que Moulin est un agent soviétique.
Ce serait auto-livré, c'est quand même... Ça part
alors,
si rocambole.
Alors, en fait, le but, selon Benfredge, en résumé, hein, encore une fois, est que... cette réunion puisse servir à faire tomber les dirigeants fascistes, entre guillemets, de combat, qu'étaient Freinet et Bénouville, qui devaient, dans son esprit, se rendre à cette réunion. Donc voilà, en résumé, la thèse de Benfredge.
Et c'est pour cela que Moulin serait arrivé en retard.
Et c'est pour ça que Moulin serait arrivé en retard, escomptant qu'à son arrivée, les Allemands auraient fait la besogne et qu'il n'y aurait plus rien à voir et plus rien à faire.
Oui, là, nous sommes dans le domaine...
Alors, bon, c'est la thèse de Benfredge qu'il minute, qu'il détaille, elle peut être contestée, je suis pas historien.
Donc le livre de Benfredge est un livre que l'on peut trouver encore. Je crois que nous avons une référence. Un auditeur nous envoie la référence. L'affaire Jean Moulin, la contre-enquête, c'est un livre qui date de 1990.
Tout à fait.
D'après cet auditeur, et qui a été publié chez Albin Michel, avec une préface de Jacques Soustelle
qui est
grand résistant, s'il en fut.
Et ne venant pas, lui, alors pour le coup, des milieux de droite d'avant-guerre, mais ayant fait un chemin méritoire, tout à fait inverse. Oui. Mais ce qui est intéressant, ce livre, on ne le trouve plus en librairie, on le trouve par contre sur Internet, par le biais de bouquinistes spécialisés, on le retrouve, puisque une de mes sœurs l'a racheté récemment par ce moyen.
Victoria, nous avons des questions d'auditeurs ou des précisions d'auditeurs. J'aimerais que vous nous les communiquiez, s'il vous plaît.
On nous reproche de ne pas avoir cité certains noms. Le président Pitot, qui était président de la Résistance, Monsieur Roman Petit.
Roman Petit, bien sûr.
Ah oui.
Grand personnage.
Qui peut parler de Roman Petit ?
Je finis l'OCM avec Vaugeois et Jacques Arthuis, voilà.
Qui peut parler de Roman Petit ?
Roman Petit, je peux en dire deux mots. C'est un ancien camelot du roi qui a été le fondateur des maquis de Lain et qui a joué un rôle important dans les affaires de maquis, d'ailleurs pas seulement de Lain, mais également des Alpes, et qui a cette particularité d'avoir fait défiler ses maquisards dans les rues de Yonax le 11 novembre 1943, en pleine occupation. Les Allemands n'étant pas dans Yonax ce jour-là, mais c'était une opération très symbolique.
Je rappelle, pour approfondir un certain nombre de points se rapportant à la résistance de droite, je rappelle le livre de Dominique Vénère, l'histoire critique de la résistance, publié chez Pygmalion. C'est un livre qui a été publié il y a trois ans, je crois, Dominique.
95.
Il a été publié en 95, mais il vient d'être réédité.
Chez Pygmalion.
Chez Pygmalion, oui.
Nous avons quelques remarques d'auditeurs encore.
J'ai par exemple une auditrice, c'est à propos de votre livre, c'est pas à propos de l'affaire Jean Moulin. J'ai plus rien sur Jean Moulin pour le moment.
Oui, nous sommes arrivés au terme de l'émission.
En définitive, mais une auditrice Je vous demande ce que veut dire God bless Africa avant d'acheter votre livre.
Bon, écoutez, c'est une plaisanterie.
Mais non, c'est pas une plaisanterie. Qu'est-ce que ça veut dire ? On parle pas anglais, nous, ici, on parle français.
Dieu bénisse l'Afrique.
Voilà.
Dieu bien.
Là-haut, moi, je rappelle les livres qui ont été cités, si vous voulez. Jean-Claude Valla, Ledesma Ramos et la phalange espagnole, au cahier Libre d'Histoire, Librairie Nationale, 12 rue de la Sourdière, Paris 1er. De Dominique Vénère, je recite, Histoire critique de la résistance, c'est aux éditions Pygmalion pour 24,50 €. Et l'affaire Jean Moulin, donc la contre-enquête, chez Albin Michel, préface de Jacques Soustelle de l'Académie française.
Je vous pose une question, une dernière question à Jacques Cogard. Avez-vous l'intention d'écrire un livre pour réfuter ces accusations qui sont largement médisantes et pour défendre la mémoire de votre oncle ?
Alors, il se trouve qu'il y a maintenant un an et demi, donc avant la mort de mon oncle, j'ai fait la connaissance chez lui d'un écrivain, d'un historien de la résistance, qui est lui-même ancien résistant, qui s'appelle Guy Perrier. Et Guy Perrier a écrit notamment une biographie sur Rémy, qui est parue il y a à peu près, pas tout à fait 2 ans maintenant. Et Guy Perrier, je lui ai dit en sortant de ce rendez-vous commun chez mon oncle, il va pas tarder à être attaqué parce qu'il va mourir et que les loups se jetteront tout autour.
Non,
pour,
pas les loups, les hyènes.
Les hyènes.
Le loup est mon frère
c'est
noble.
C'est vrai.
Mais
les hyènes. Les hyènes. Alors disons les hyènes. Et donc j'avais demandé à ce moment-là à Guy Perrier de poursuivre un projet qu'il avait, dont il venait de parler devant moi à mon oncle, qui était en fait de rédiger sa propre biographie. Donc ce livre est en cours. Il paraîtra aux éditions Perrin dans les mois qui viennent, je pense, à la rentrée.
Nous en reparlerons quand il sortira, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Deux, trois questions importantes d'auditeurs qui viennent de nous arriver.
Alors, j'ai rencontré le docteur Grassin, une femme dont le père était préfet de la résistance. Celui-ci lui a toujours dit que les responsables de l'arrestation de Moulin étaient les époux Aubrac. Le docteur Grassin est mort il y a peu. Le docteur Dugoujon ou un membre de sa famille, son demi-frère notamment, ou sa belle-sœur, n'aurait-il pas joué un rôle dans cette affaire ?
Et dernière question.
On trouve encore le livre de Bainfraîche chez Albin Michel.
Alors qui veut répondre rapidement, en deux minutes, à ces remarques d'auditeurs à propos de Dugoujon, Jean-Claude Valla ?
Dugoujon, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon qu'une belle-sœur de Dugoujon était à la milice. Bon, mais c'est des choses, ça montre simplement que qu'à cette époque, les familles pouvaient être divisées.
Et sur rien d'autre à dire sur le docteur Dugoujon. Eh bien écoutez, chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre émission. Nous allons rappeler peut-être le rendez-vous à la mère agitée pour mardi gras avec le chœur Montjoie à Saint-Denis.
Le mardi 4 mars. À partir de 20h30.
Rue Campagne Première.
Dîner 25 €. Inscription 01 43 35 56 64. Et à la mère agitée qui est bien 21 rue Campagne Première dans le 14e.
Nous annonçons notre prochain rendez-vous le 19 mars avec Dominique Vénère et Philippe Conrad. Nous parlerons à ce moment-là du numéro de la nouvelle revue d'histoire qui sera sorti. Et nous parlerons du livre « God bless Africa, contre la mort programmée du continent noir », entre autres. Nous rappelons un certain nombre d'annonces. Nous rappelons
L'Afrique réelle, par exemple,
oui,
qui
très
se
bonne
trouve
idée.
À la boîte postale numéro 6, 0340 à Charroux. L'abonnement pour 4 numéros, 58 €. Et puis tout de même, ce « God bless Africa ».
Oui.
Ça se trouve, c'est contre la mort programmée du continent africain.
Oui. Oui, d'accord, très bien, oui, parfait.
Aux éditions Carnot, pour 20 €.
Voilà. Dans toutes les bonnes librairies, et si les auditeurs désirent avoir le livre dédicacé, donc à le commander à l'Afrique réelle, nous vous enverrons le bon de commande en écrivant à l'Afrique réelle. Victoria, merci. Jacques Cogard, merci. Jean-Claude Valla, merci. Philippe Conrad et Dominique Vénère, merci. Chers auditeurs, bonsoir. Rendez-vous donc au mercredi 19 mars à 18h pour notre prochaine émission. Nous remercions la technique et nous rendons l'antenne.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106,
à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 26 février de 18 à 21h, en différé jeudi 27, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.